Bien, bonsoir. Non, vous n'êtes pas prêt apparemment. Tout d'abord, une petite préface très courte, juste pour introduire le sujet en lien avec Pessah. C'est que on a une Gemara dans Megillah Daf Yud Amud Bet, dans Sanhedrin Daf Lamed Tet, qui nous dit que lors de la sortie d'Égypte, lorsque les Bnei Israël sont passés lors de Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer, les Égyptiens les ont suivis et s'y sont noyés. À ce moment-là, les anges ont voulu chanter les louanges de Dieu. Bikshul Omar Shira. Et là, Dieu leur dit, ce que le Chazal nous raconte donc dans ces deux Gemarot, là, Dieu leur répond, Maase Yadai Tovim Bayam, mais l'action de mes mains, mes créatures sont en train de se noyer actuellement dans l'eau, et vous, vous voulez commencer à chanter, mais ça va pas ou quoi? C'est pas possible un truc pareil. On voit de là que même lors de la fête de Pessah, qui est la fête en fait où le peuple juif se crée, au moment de la création du peuple, même à ce moment-là, les Chazal nous mentionnent, attention, pas de racisme. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas juif qu'il faut le mépriser. Même lors de la fête de Pessah, on mentionne ça. Il y a différents Mahamarim, on va essayer d'en parler. Malheureusement, il faut reconnaître, beaucoup de juifs qui sont racistes. Racistes, pas forcément dans l'entendement classique du terme, c'est pas des gens qui vont venir taper sur les autres, sur les non-juifs, mais qui éprouvent un certain sentiment de mépris, parfois même un peu plus. J'ai déjà entendu des juifs très pratiquants, très croyants, très religieux, etc., exprimer leur dégoût du non-juif. Comment, même sur les Français, sur les Arabes, sur je ne sais quoi, à dire, les Français, Burke, etc., etc., etc. Il faut savoir que la Torah nous dit, l'hôte est à Ève et Domi, n'est pas en abomination, n'est pas en horreur les Domites, donc c'est le goy européen, qui a Richaou, c'est ton frère. Tu ne dois pas dire, Burke, je suis écœuré. On ne doit pas, on est différent, d'accord, on va voir aussi la notion de ces différences. On est différent, il ne faut pas se mélanger, on ne peut pas se marier avec eux, d'accord, mais il ne faut pas en être écœuré à ce point. Alors, avant de commencer, il faut déjà établir une distinction entre deux catégories, deux sortes de racisme. Le racisme que je vais appeler le racisme objectif et le racisme qui trouve sa racine dans les mauvaises midot. Seul ce dernier est condamnable. Ce que j'appelle le racisme objectif, c'est tout simplement une personne qui dirait d'un noir qu'il est noir. Désolé, c'est pas ça du racisme. C'est une réalité, qu'est-ce que tu veux faire? Il est noir. Celui qui dit sur un noir, il est noir, ça n'est pas un raciste. Celui qui le contredit, lui, c'est un fou. Par contre, là où il y a un problème, c'est celui qui va dire, le noir est noir, et donc, je ne l'aime pas, et donc, je le méprise, et donc, je considère qu'il vaut moins que moi, et donc, je considère qu'il est malhonnête, qu'il est bête, qu'il est, etc., etc. Ça, c'est du racisme. Considérer une couleur de peau, une appartenance, une ethnie, peu importe tout ça, c'est moutard, c'est normal, c'est sain. C'est normal de reconnaître qu'il y a des gens différents. Il y a des Chinois, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Juifs, et il y a des Indiens, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, commencer à se comporter différemment en fonction de l'origine de la personne, dès qu'on me dit, lui, mais attention, c'est un Juif, oulala, c'est un Juif, alors non, je peux faire d'affaires avec lui, c'est des roublards, les Juifs, ça va pas. Pour un Juif, pareil pour un Arabe, pareil pour un Noir. On ne doit pas se comporter différemment avec une personne uniquement parce qu'il est ceci, cela. Si on constate qu'après, en effet, c'est un voleur, en effet, c'est un casse-pied, alors je me tiens à l'écart de cette personne. Mais je ne dois pas porter un jugement avant de connaître la personne. Donc, le seul problème, c'est celui qui va porter un jugement, celui qui va se comporter de manière différente en fonction de l'origine de la personne qu'il a en face. Le peuple juif a énormément souffert du racisme, on appelle ça l'antisémitisme aujourd'hui. L'Echoura, c'est une obligation qui nous incombe à nous, juifs, de ne pas se perdre dans ces bêtises, de rester clairvoyants, de ne pas commettre la bêtise qu'ont commis malheureusement beaucoup de non-juifs, à l'encontre des juifs, ou bien à l'encontre des noirs à une époque, ou à l'encontre d'eux, peu importe. C'est pas parce que d'autres l'ont fait que nous devons les suivre, bien au contraire, ayant souffert de cela, on devrait s'en garder. Ça serait honteux si des juifs tombaient dans le racisme bête et stupide. Néanmoins, je ne vais pas vous cacher qu'il y a aujourd'hui sur Terre des rabbins racistes. Il y en a. Il y a des rabbins racistes, et donc il convient d'analyser quelles sont leurs sources, pourquoi ils considèrent que, qu'est-ce qui les pousse dans ce sentiment raciste, qu'est-ce qui les a entraînés là-dedans, pourquoi ils en sont arrivés là. Et il faut analyser, est-ce que ces sources, est-ce que la raison pour laquelle ils sont racistes, partiellement, un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, est-ce justifié, est-ce erroné, si oui, si non, jusqu'à quel point, etc. Si jamais il y a une erreur, si jamais ce sentiment de mépris, de haine de l'autre n'est pas justifié, il faut comprendre que même du point de vue de la Torah, ça serait un sentiment, un regesh qui éloignerait terriblement le juif de Dieu. Un juif qui aurait un sentiment léger de mépris envers un non-juif uniquement parce qu'il n'est pas juif, si ça n'est pas justifié par la Torah, c'est qu'apparemment la Torah s'y oppose. C'est qu'apparemment, le fait de ressentir ce sentiment est quelque chose qui éloigne le juif de Dieu. Alors, avant d'analyser ces sources, une précision. Il faut commencer par une akdama, une préface. Il faut qu'on se mette d'accord sur un point qui nous permettra de réfléchir. Le premier point, c'est que il est impossible que dans la Torah, il y ait une injustice. Il faut partir sur cette donnée de base, que je vais justifier tout de suite. Il est impossible qu'il y ait une injustice. Itzedek, aflaya, impossible que dans la Torah il y ait une injustice. Pourquoi ? Si jamais on voit une mitzvah qui semble être injuste, de deux choses l'une. Soit on a mal compris la mitzvah, c'est pas exactement ça, elle ne s'applique pas dans tel et tel cas, soit on ne sait pas ce qui s'appelle juste et injuste. Mais c'est pas possible qu'il y ait dans la Torah quelque chose d'injuste. Il est marqué dans Parashat Haazinu, on dit, avec la matbet pasuk dalet, atzur tomim porlo yikichol drochov mishpot, el emuna ve'ein avel, tzadik ve'yashar ou. Dieu est un Dieu de justice. Il n'y a pas d'injustice dans la Torah du bon Dieu. Ça n'est pas possible. S'il y en a, c'est que ce n'est pas la Torah. Et si jamais c'est la Torah, c'est que tu n'as rien compris à ce qui s'appelle la justice. Alors évidemment, vous allez dire, c'est comme ça, on est vite tenté de dire, oui, bon, ok, ça sera la Torah, elle dira qu'il faudra être injuste, qu'il faudra mépriser le mec, qu'il faudra être vache avec lui, et quand tu vas me dire, ah, mais qu'est-ce qu'on fait de la justice, qu'est-ce qu'on fait de la morale, tu vas me dire, tout ça, c'est subjectif, il n'y a pas de... Qui tu es, toi? Qu'est-ce que le sechel humain pour décréter ce qui est bon et ce qui est mauvais face à la morale divine? Et là, non, je m'insurge, je m'inscris en faux. Il n'y a pas de morale divine qui aille à l'encontre de la morale humaine. Cela n'existe pas. Et c'est la Torah, encore une fois, qui nous l'enseigne. Il est marqué dans le Passouk, dans Michelet, chapitre 3, verset 17, le Passouk dit « Derachea darke noam v'chon etivotea shalom ». C'est-à-dire que Shlomo Ameler, qui a étudié et compris toute la Torah, témoigne qu'il n'y a pas dans la Torah un enseignement, une mitzvah, une idée, une hashkafa qui irait à l'encontre de la morale humaine. Tout est compréhensible par l'homme et « Drachea darke noam ». Les chemins de la Torah sont des chemins agréables. Toutes ces voies mènent à la paix. Il n'y a rien dans la Torah qui est supposé être injuste, méchant, désagréable. En principe, la Torah est juste. Donc pas seulement, d'une part on voit dans le passage que la Torah est juste, d'autre part on voit par Shlomo Ameler que la compréhension humaine doit être l'arbitre. Ce n'est pas, non, mais il y a une morale divine qui dépasse l'entendement humain et la morale divine te dit qu'il faut prendre un non-juif et le couper en rondelles. Ça n'existe pas des choses comme ça. Ça ne peut pas exister. Si ça existe, c'est que ça n'est pas de la Torah. Cette idée qu'on voit de Shlomo Ameler, que le bon sens humain doit régner, on la retrouve encore chez tout plein de Rishonim. Énormément de Rishonim le disent. Le Ibn Ezra, dans son commentaire sur Shemot, chapitre 20, verset 2, le Ibn Ezra écrit « Chalila, chalila, shetie mitzvah achat mehen makreshet shikuladat, chas veshalom, à Dieu ne plaise, qu'il n'y ait pas une seule mitzvah dans la Torah qui puisse aller à l'encontre du bon sens humain. C'est impossible qu'il y ait une mitzvah qui aille à l'encontre du bon sens, qui choque l'entendement humain. » Attention, je précise, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des mitzvot que l'entendement humain a du mal à entendre et à comprendre. Bien sûr, il y a des chukim, on a du mal à les comprendre. Mais il faut savoir que même les chukim, shahatnes, paradouma, tout ce que vous voulez, ça ne fait pas offense au bon sens. Ça ne va pas à l'encontre du bon sens. On n'est pas en train de faire quelque chose d'impensable. Dans le domaine du religieux, ok, je fais ça, la Torah me dit, tu ne mets pas de shahatnes, d'accord, je ne mets pas de shahatnes. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans aussi. Le Midrash dit que Shlomo Ameler a compris shahatnes. On peut comprendre tous les chukim. Seulement, c'est difficile. Il faut se travailler, il faut creuser, il faut étudier la Torah pour bien comprendre. En tout cas, rien ne doit aller à l'encontre du bon sens. On ne doit rien faire qui va à l'encontre du bon sens. Le Sefer HaYikarim aussi, le Rav Albo, dit dans son livre « Ma'amar Gimel Perek Rafé » qu'il est impossible que nous ayons à croire à quelque chose qui irait à l'encontre du bon sens, car si c'est ainsi, le Sechel, l'intelligence, aurait été donnée à l'homme en vain. on serait comme des animaux en fait. À quoi bon donner l'intelligence à l'homme? Pourquoi Dieu se fatigue à donner l'intelligence à l'homme si ce n'est pour ne pas l'écouter après? Dans le Moreh Nevuchim, le Rambam écrit la même chose dans le guide des égarés, dans Chelek Gimel Perek Nun Aleph. Le Moreh Nevuchim écrit que le Sechel, l'intelligence humaine, c'est un malhar, c'est un ange. C'est un malhar que Dieu a placé entre l'homme et Dieu pour faire la jonction. On a du mal à parler à Dieu facilement, on peut lui parler dans la prière, mais on ne l'entend pas toujours nous répondre. Le seul moyen de créer un dialogue avec Dieu, de savoir ce que Dieu attend de nous, ça doit passer par le cerveau. La même idée se retrouve aussi chez les Acharonim, mais là encore beaucoup plus. Dans le Rachaim HaKadosh, on voit cette idée-là dans son commentaire sur Bereshit 23.4. Rachaim écrit « Viesh lecha ladat, tu dois savoir qui kol toratenu akdosha, dans toute la Torah, de A à Z, hi sichliut, toute la Torah est basée al pisechel. Toute la Torah est compréhensible par le cerveau humain. » C'est-à-dire, il ne doit rien avoir dans la Torah qui aille à l'encontre de la morale humaine. Et il ajoute « Ubifrat beinyane hanaga », un titre particulièrement en ce qui concerne, on va dire, le ben adam la chavero. Ce qui concerne les rapports avec autrui, là c'est sûr qu'on ne doit pas aller à l'encontre du bon sens. Il faut toujours respecter le bon sens. Le Radak aussi écrit la même idée, commentaire sur Bereshit 26. Le Radak écrit « Mishinatan sechel ba'adam ke ilu tzivaou » Celui qui a mis le sechel dans l'homme, c'est comme s'il lui avait ordonné, donné l'ordre de respecter « al-kol davar shea sechel more alav » qui a sechel ou shliach hakel. Celui qui a créé le cerveau humain et qui l'a, on va dire, programmé, c'est Dieu. Il l'a mis dans l'homme, c'est pour que l'homme le suive. Si Dieu a créé le cerveau humain et que ce cerveau indique que ça n'est pas bien de faire telle ou telle chose, c'est que Dieu considère que ça n'est pas bien. Alors, il y a dans les sources, quand on regarde, que ce soit dans les psukim, comme on a dit, dans Dvarim 23, verset 8, c'est marqué « Loteta ev edomi »,« Loteta ev mitzri »,« Loteta ev edomi ki achichao »,« Loteta ev mitzri ki geraita be'artso », on ne doit pas avoir en abomination donc le non-juif. On retrouve cette idée dans la Mishnah aussi. La Mishnah, dans Maseret Sanhedrin, Daf Lamed Zayin, il est marqué dans la Mishnah, la Lamed Zayin Amud Aleph, la Mishnah, elle dit comme ça, pourquoi l'homme a été créé seul? Pourquoi Dieu a créé l'homme seul? Il y avait un couple seulement au départ. Pourquoi créer un seul couple? C'est pas gentil de faire ça. Quand on se retrouve qu'à deux sur Terre, c'est difficile de vivre à deux. Aujourd'hui, on bénéficie du fait qu'il y ait plein de monde sur Terre. Vivre à deux isolés, c'est très difficile. Pourquoi Dieu a créé qu'un seul couple au départ? Pourquoi ne pas créer plein de monde dès le départ? C'est désagréable d'abord de vivre seul, on n'a pas d'amis. La Gemara dans Ta'anit Rav Gimel a dit « Ochavruta omituta » On a besoin d'avoir des amis, des personnes avec qui se confronter. Vivre seul, c'est insupportable. D'autre part, tout le reste, quoi. Voilà, aujourd'hui, si on veut avoir des lunettes, imaginez le nombre de personnes qu'il faut. Si quelqu'un doit tout se faire tout seul, ses affaires, ses habits, ses chaussures, ses lunettes, on ne va jamais s'en sortir. Cuisiner son pain, etc. C'est beaucoup plus simple si chacun se spécialise dans un domaine et après, tout le monde peut en profiter grâce au commerce. À tous les niveaux, c'est désagréable de se retrouver tout seul sur Terre. Même pour les Shidduchim, Adam et Ève, ils n'avaient pas le choix, c'est terrible. La Mishnah nous dit alors pourquoi Dieu a fait ça à l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme seuls sur Terre? Pour ne pas qu'un jour quelqu'un puisse venir et dire à l'autre « Abba Gadol Me'avicha, mon ancêtre, moi je suis d'une race plus pure que toi. Mon ancêtre est plus Kadosh, mon ancêtre est mieux que le tien. » Pour ne pas qu'un homme puisse dire à un autre une fois « Moi je suis plus Kadosh, moi je suis plus ceci ou plus cela », pour éviter cela, la Torah nous dit « Voilà, l'homme a été créé seul, comme ça au moins, tu pourras toujours dire « On est tous descendants du même couple, on est tous descendants de Adam Harishon ». Et par conséquent, il n'est pas possible d'envisager le racisme. Vous allez dire « Malgré tout, il y en a qui arrivent quand même à être raciste ». C'est vrai, imaginez ce que ça aurait été sans ça. On a aussi une Mishnah dans Avot, Perek Gimel, Mishnah Yudalet, la Mishnah elle dit « Chaviv Adam Shinivra Betzalem », etc. Là-bas la Mishnah fait une distinction entre « Chaviv Adam Shinivra Betzalem » et « Chavivin Israël Shinikriu Banim Lemakom ». Donc on voit bien que ce Adam en question, c'est même le Goy. Le Goy aussi est considéré « Chaviv » cher aux yeux de Dieu dans le sens où il a été créé « Betzalem ». Le Tosfot Yom, le Tiferet Israël, beaucoup de commentateurs soulignent là-bas que ça inclut le Goy aussi. Dans le Rashbat, déjà, il est devant. Le Rashbat, dans Magen Avot, aussi écrit ça. Et énormément de commentateurs écrivent que cette Mishnah parle aussi des non-juifs, comme c'est clair dans les mots de la Mishnah, puisqu'après on parle du juif. Donc, après cette préface, nous devons donc analyser différents Ma'amar et Chazal qui semblent racistes dans la Torah. On a dans la Gemara différents ma'amarim qui sont un petit peu touchy, comme ça, c'est vraiment limite. Comment les comprendre? Tout le monde en a quelques-uns qui traînent en tête. Je vais essayer de rapporter les plus connus et d'expliquer. Il faut savoir que le fait de ne pas se fatiguer, c'est cette fainéantise, le fait de ne pas vouloir se fatiguer à justifier, à expliquer, à creuser, à analyser ces ma'amarim, mais à se dire « Non, mais c'est bon, moi, de toute façon, je suis gentil, je suis pas raciste, j'aime mon voisin gauche, je suis gentil. Bon, il y a un ma'amar comme ça, c'est pas grave. » Ça non plus, c'est pas derer kvusha. C'est pas bien d'agir comme ça. Parce que si on fait ça, en finale, ces ma'amarim, ils nous trottent en tête. Et après, quand on voit une injustice, on n'est pas là sur le front pour réagir. On va pas réagir. On ne va pas empêcher l'injustice. On va laisser s'infiltrer dans le judaïsme un sentiment raciste. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est pas bien. C'est une mauvaise mida, il faut la combattre. Donc, ce qui peut créer des fois ce sentiment raciste chez certains juifs, même certains juifs érudits, lettrés, qui auraient lu dans les Gemarot des textes qui vont dans ce sens-là, c'est notre responsabilité de le dénoncer, s'il y a de quoi dénoncer. Donc j'attaque ces ma'amarim. Premièrement, on a surtout dans le deuxième chapitre de Maseret Avodah Zarah. D'abord un texte qui dit que « Ein meyal din ben l'Avodah Zarah ». On ne peut pas faire accoucher une femme non-juive. Il ne faut pas aider une femme non-juive à accoucher. Ah bon, pourquoi? Il ne faut pas faire naître un fils pour la Avodah Zarah. Évidemment, le Tiferet Israël écrit « De nos jours, aucun souci, car les goïms que nous côtoyons ne sont pas des Ovdei Avodah Zarah. Déjà, son maître l'avait devancé, Rabbi Akiva Eger, dans les Hagaot sur Yoreda Siman Kuf Nun Hei Seif Bet, écrit que les goïms de nos jours ne sont pas des Ovdei Avodah Zarah. Si on a un goï qui n'est pas Ovdei Avodah Zarah, Vekibel Alav Shiv'a Mitzvot, bien entendu, mais Yaldim, il n'y a aucun souci. On va revenir sur ce point de qu'est-ce que c'est que Ovdei Avodah Zarah et qu'est-ce que c'est que Kibel Alav Shiv'a Mitzvot. Dans le Rashba, dans le Shuta Rashba, dans Chelek Alef Siman Kufraf, il souligne que le Ramban Nachmanide, donc c'est un Rishon, ça fait longtemps déjà, il était encore un petit peu avant le Rashba, c'était son maître, il souligne que le Ramban Aya Osek Be'ibur Nochriot, il se préoccupait aussi, une fois il y a une dame non-juive qui est venue le voir, il était médecin le Ramban, et qui lui a dit « j'arrive pas à avoir d'enfants », etc. Et le Ramban lui a conseillé des médicaments, il lui a dit « tu fais ci, tu fais ça », etc. pour la guérir, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Donc c'est qu'apparemment, il n'y a pas de souci, apparemment, ça passe, il n'y a pas de problème. Le Ramban habitait en Espagne, il connaissait des non-juifs chrétiens qui se comportaient bien, apparemment il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Dans le Beit Yosef, il ramène, pas dans le Beit Yosef classique, dans la partie Bedek Abayit, c'est l'ajout que le Beit Yosef a ramené le Rav Yosef Karo après, il y aurait des à la fin de Siman Kuf Nun Dalet. Dans le Bedek Abayit, il ramène que Rabbeinu Yona a envoyé une lettre au Ramban, Rabbeinu Yona c'était le Mechoutan du Ramban, il lui a envoyé une lettre, il lui a écrit « Tavo alecha bracha shata marbe zaro shalamalek ». Salut à toi, multiplicateur d'Amalek, d'Amalécite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes de quoi guérir une femme que par un enfant? Un Amalek de moins, qu'est-ce que tu commences à nous embêter? Donc apparemment, voilà, c'était pas clair pour tout le monde et il y avait de quoi discuter. Dans le shoot du Khatam Sofer Yoredea Siman Kouflamedal, il parle de ça là-bas, savoir quel est exactement le point de Mahloket, quelle était la divergence entre les deux rabbins. Un autre Mahamar, Ein Ma'amidin Ve'ema Be'pundakao Tchelakum. C'est marqué aussi, c'est une Mishnah, donc au début du second chapitre d'Avodah Zarah, d'Afraf Bet Amud Aleph, on ne doit pas laisser en dépôt, en garde, un animal dans une auberge, littéralement, une auberge, une étable, qui appartient à un non-juif. C'est-à-dire, je vais partir en vacances, je dois laisser mon mouton laisser garder chez un voisin, chez quelqu'un, je ne dois pas le laisser chez un voisin non-juif. Ah bon? Pourquoi? Rachoudine, les non-juifs sont suspectés, Rachoudine al-Revi'at Abéhéma. On les suspecte, on les soupçonne de zoophilie. Et donc il ne faut pas laisser l'animal midin l'ifné hiver. Ça aussi c'est étrange. Et le Tiferet Israël écrit là-dessus, évidemment de nos jours ils ne sont plus Rachoudine sur la zoophilie, il n'y a plus de risque, même si ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des non-juifs. Et donc, pas de problème, on peut laisser l'animal chez le non-juif. Le Parhad Yitzhak du Rav Yitzhak Lamprandi aussi a écrit la même chose, un petit peu avant l'entrée Goy dans son encyclopédie. Il écrit la même chose que de nos jours, ce n'est plus applicable. En fait, ils ont été devancés bien avant déjà par le Ran. Le Ran, il est ramené dans le Melechet Shlomo là-bas sur la Mishnah. Déjà, il écrivait de nos jours, pas de souci à ce niveau-là. C'était uniquement à l'époque de la Gemara où les non-juifs se comportaient massivement comme ça. Le Rashba écrit aussi la même chose. Le Rashba est ramené dans le Magid Mishneh, dans les Chot Isurei Bia, Perek Rav Bet Alachahe. Le Rashba écrit qu'on voit clairement dans la Gemara Avodah Zarah Daftet Vav que cet interdit ne s'applique que dans les endroits où les non-juifs étaient suspectés de zoophilie. C'est-à-dire, même à l'époque des sages, il y avait des endroits où il y avait des non-juifs plus ou moins normaux. Donc, dans ce cas-là, pas de souci. Par conséquent, de nos jours, si on habite dans un pays où les non-juifs majoritairement ne s'adonnent pas à la zoophilie, pas de souci, pas de problème, on peut laisser l'animal, il n'y a aucun problème. C'est marqué aussi dans une note inscrite dans le Shulchan Arour, dans Yerdea Siman Kufnun Gimel. Un autre point qui revient souvent aussi, toujours dans le second chapitre de Avodah Zarah, il est écrit que les non-juifs sont chashudin à la harayot. On les soupçonne d'adultère, c'est-à-dire, dans les lois de Yihoud, on n'a pas le droit de s'isoler. Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme dans un appartement. Par contre, si jamais cet homme est accompagné dans cet appartement de son épouse, la femme a le droit de s'isoler avec un couple. Parce que l'homme est là, ok, mais il y a sa femme, et on dit « ishto meshamarto ». Sa femme est là, elle gardera, sa femme fera attention. La femme n'est pas intéressée que son mari trompe, donc pas de souci. Ça, c'est ce qui est marqué pour un juif. Mais pour un goy, c'est marqué dans le second chapitre de Avodah Zarah là-bas aussi, qu'eux sont suspectés d'adultère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le din de ishto meshamarto, c'est-à-dire qu'on soupçonne la femme du non-juif de n'y voir aucun problème, et donc elle laisserait faire. Voilà pourquoi il y aurait un issur yichud quand on va, quand une femme juive irait chez un homme non-juif avec sa femme non-juive, malgré tout, issur yichud. Ça, c'est ce qui est marqué dans la halakha. Le Tiferet Israël ramène que son ancêtre, le Maharam Padve, dans Siman Chaf Vav, souligne que c'est étrange, on ne respecte plus cette halakha de nos jours. Comment ça se fait? C'est pas bien, on devrait respecter. Les femmes juives vont parfois dans les maisons des non-juifs, elles ne devraient pas avoir le droit. Mais le Tiferet Israël ramène du shoot du Chavot Yair, du Rav Bachar, dans Siman Samer Vav, qui met la Metzroute sur cette idée. Il dit non, de nos jours, ils ne sont pas Rachoudine à la Rayot. C'est pas vrai, de nos jours, une femme non-juive, elle ne laisse pas passer. Ça n'existe pas, cette idée-là. Aujourd'hui, une femme non-juive ne veut pas, elle ne considère pas que c'est Efker comme ça. Donc, cette halakha n'est plus applicable, ne serait plus applicable dans la mesure où c'est interdit par la loi, l'adultère, etc. etc. Un autre point, Rachoudine al-Shfirhut Yamim. On dit aussi, toujours dans la Mishnah, là-bas, dans Avodah Zarah, que les non-juifs sont suspectés de Shfirhut Damim. On les soupçonne, ils ont le poignard facile. Ils peuvent tuer facilement quelqu'un, rapidement, etc. D'où découlent plusieurs halakhot que en mitrapin me'en, en mistaprin me'en. On n'a pas le droit d'aller chez un médecin non-juif, on n'a pas le droit d'aller chez un coiffeur non-juif, parce qu'il pourrait profiter tant qu'il a son rasoir, hop, etc., etc. Le Tiferet Israël écrit encore une fois sur cette Mishnah, là encore, aujourd'hui, ils ne sont pas suspectés là-dessus, puisque de toute façon, aujourd'hui, la loi interdit de tuer un non-juif. Le Bahad Yitzhak, pareil, au même endroit, écrit la même chose. Le Chaye Adam, donc là, Yudalef, c'est If Membet, écrit aussi que de nos jours, c'est plus tellement applicable, puisque de nos jours, un non-juif qui tuerait un juif aurait des comptes à rendre à la justice, donc il ne le fait pas. À l'époque, réellement, à l'époque, un goy qui tuait un juif, aucun souci, on le laissait tranquille. C'est pourquoi il y avait un danger. Mais de nos jours, plus tellement de danger. Il est ramené aussi ce Chaye Adam, par le Mishnah Bura, dans Siman Chaf, de Rachaim, Sif Katan, Zain, par le Mishnah Bura. Mais il faut savoir que dans le Kafachaim, Kafachaim, là-bas dans Siman Chaf, de Rachaim, le Kafachaim, Ot Yud Bet, n'est pas d'accord avec le Mishnah Bura. Il n'est pas d'accord avec le Mishnah Bura sur ce point, enfin avec le Chaye Adam, il ne cite pas le Mishnah Bura, il cite le Chaye Adam. Il n'est pas d'accord, il dit non, 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 pas du tout, cette halakha est encore d'actualité. Et moi, je peux vous dire que j'ai entendu plusieurs fois des cas où ça s'est passé malheureusement, où le goy a tué le juif, ou bien il a voulu le tuer, mais il n'a pas pu, mais en tout cas, il y a encore un danger. Tout simplement, le Kafachaim habitait à Bagdad, et à Bagdad, à son époque, c'était encore dangereux. Tandis que le Tiferet Israël habitait en Allemagne, et en Allemagne, à son époque, c'était déjà plus dangereux. Dans le livre « Dama Shetashiv » du Rav Moshe David Gross, page Samech Aleph, il écrit qu'il faut bien comprendre que tout ceci n'est pas une gouzma, ça n'est pas une exagération, on n'est pas en train d'exagérer, les Chachamim n'ont pas dit ça pour le fun, c'est pas une xerat akatour, un pasouk qui demanderait de faire attention à ces points-là par rapport au grim, c'est pas non plus une exagération, ils ont parlé très sérieusement les rabbins. La réalité, c'est qu'à l'époque, un non-juif qui tue un juif n'était pas poursuivi par la loi, par conséquent, il y avait réellement un danger. Mais forcément, dit-il, il en résulte que de nos jours, où ça n'est plus comme ça, de nos jours, c'est pas vrai, un non-juif qui tue un juif, ça dépend des pays, mais un non-juif qui tue un juif, en principe, a des comptes à rendre, et par conséquent, de nos jours, plus de soucis et cette halakha n'est plus applicable. Il a été devancé dans cette idée déjà par le Rav Baruch Hitles dans la Hakdama de son Ta'am Ameler. Il écrit que tous les dinim concernant les goyim que l'on retrouve comme ça dans le Talmud qui ont l'air un petit peu... ça a l'air d'être une discrimination, on est en train de critiquer, de dire que le goy il est méchant, il est ceci, il est cela. Tous ces dinim là ne concernaient que les barbares de l'époque des Chazal. Et la preuve, dit-il, la preuve que ça concerne des barbares, c'est qu'on voit bien que les Chachamim disent à leur sujet qu'ils sont suspectés de zoophilie. Voilà, tu vois bien que c'était ces gens-là, à l'époque, ils vivaient comme ça, donc c'était des barbares. Mais de nos jours, ça n'est plus applicable. Dit à l'époque, réellement, les gens, les goïms, de l'époque de la Gemara, ceux qu'ils ont connus du moins, se comportaient réellement comme des animaux. Dit, c'était pas des êtres humains, ces gens-là, ils se comportaient comme des bêtes. Dit, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, et une Gemara dans Yivamot Samechal, elle fait aussi dans Baba Metzia, Kufyutdal et Amoudbet, dans Ritout Var Amoudbet, la Gemara, elle dit, Atem Kroui Madame, vous êtes appelé homme, mais pas le non-juif, c'est par rapport à la halakha de Toumat Oel, dans un mort. Pourquoi? Ben oui, parce que regarde les goïms qu'ils avaient à l'époque, c'était vraiment des animaux. Mais ça ne serait pas applicable pour un goï civilisé. Dans Parashat Kedoshim, dans Vaikra, chapitre 20, verset 23, après C'est toujours ce que le Tam Amelher souligne. Après que le Passouk parle de différents péchés, différentes abominations, comme Noten, Mizarho, la molère, les sacrifices humains, l'adultère, toutes sortes d'incestes, après le Passouk conclut et dit « L'otel chou bechukot agoy asherani meshaleach milpanechem, ki et kol ele asu va akutz bam » Ne suivez pas les voies des non-juifs. C'est Dieu s'adresse aux juifs qui vont entrer en Israël. Il dit, ne suivez pas les voies des non-juifs qui vous ont précédé en Israël. Parce que ces gens-là ont fait toutes ces abominations, toutes celles qui ont été citées avant, donc les sacrifices d'enfants, l'adultère, etc., etc. Va akutz bam. Dieu dit, c'est pour ça qu'ils m'écœurent ces gens-là. Donc on voit bien que le problème, c'est les péchés que ces goyim commettaient, et un goy qui se comporte bien, pas de souci. Il y a une autre halakha aussi qui est marquée dans la Gemara d'Azara Chavav Amud Alef en bas, que lo ma'alin, si on trouve un goy dans un trou, on l'y laisse. Il est au fond d'un trou, s'il n'y a pas de danger évidemment avec la police, mais bon voilà, non-assistance à personne en danger, on le laisse tranquillement mourir, on le dit oui, je viendrai te chercher à l'occasion, et on le laisse mourir dans le trou. Ah bon? Mais pourquoi il faut être si méchant avec le goy? Là aussi, les commentateurs expliquent. Il ne s'agit pas d'un goy, il s'agit du hakoum, du oved avodazara, du vilain, de celui qui faisait toutes sortes d'abominations, comme on l'a cité ici, c'est ce qu'écrit le Meiri, c'est uniquement dans le cadre d'un oved avodazara. Mais un gentil goy, pas de problème. Le Be'er Agola aussi, dont Shulchan Aruch souligne sa prochaine mishpat, siman taf chaf hei ot shin. Il faut comprendre, quand je dis avodazara, c'est pas. Une guerre des religions. C'est pas ma religion est mieux que la tienne, alors moi je vais défendre ma religion, alors si t'es pas de ma religion, alors on t'attaque, etc., etc. C'est pas ça, Avodah Zarah. Le concept de Avodah Zarah, ça n'est pas d'appartenir à une autre religion, suivre un autre rite que le judaïsme. Ça, il n'y a pas de souci. La Torah ne s'oppose pas à ce que d'autres aient des rites différents. Faites ce que vous voulez, du moment que vous comportez bien. L'idée de Avodah Zarah, l'idée du polythéisme, c'était pas « je pratique une autre religion », mais c'était « je suis un barbare et je me justifie par mon polythéisme ». C'est-à-dire, le polythéisme c'est quoi? C'est considérer qu'il y a plein de dieux, il n'y a pas un seul dieu qui gère tout, qui chapeaute tout. Il y a plusieurs dieux séparés. Et donc, il y a un dieu, le dieu de l'argent, il y a le dieu de la guerre, il y a le dieu du sang, il y a le dieu du vol, il y a le dieu des femmes, il y a le dieu de tout, un dieu pour chaque chose. Par conséquent, la Avodah Zarah, c'était un moyen de se dire, moi, je vais opter pour tel dieu. Je crois en une multitude de dieux, mais j'en sers qu'un seul. Lequel je sers? Celui qui m'est le plus facile, le plus agréable à servir. Un des dieux, par exemple, est très regardant et très pointilleux sur le vol. Mais d'un autre côté, le meurtre, pas de souci. Un autre est très pointilleux sur le meurtre. Il ne faut pas tuer dans sa religion. Par contre, un adultère, pas de souci. Un autre, il dit, ah non, l'adultère, c'est dramatique. Par contre, sacrifice humain, vas-y. Etc., etc. Et donc, les personnes choisissaient en fonction de leur attirance en fonction de leur Yetzerara, choisissaient la religion la plus agréable et la plus sympathique pour se permettre, sous couvert de religion, sous couvert de piété, pour se permettre toutes sortes d'abominations. C'était ça l'idée de Avodah Zarah, c'est ça l'idée du polythéisme. C'est contre ça que Avraham Avinu s'est insurgé lorsqu'il a lancé le monothéisme, c'était pour aller à l'encontre de cette mode de se dire « voilà, je fais ce que je veux, je me permets tout ». Cette idée, le Meiri l'écrit déjà, dans Gittin Daf Samech Bet, Amud Alef, le Meiri écrit « Avodah Zarah est à Moshechet, à Lev. La Avodah Zarah, elle attirait terriblement les gens. Elle était extraordinairement attrayante. Aïta Moshechet, à Lev, Arbe, Mitzad, Toelet, Chayou, Masigim, Beavodata. Parce qu'on pouvait gagner beaucoup de choses intéressantes en servant à l'Avodah Zarah. Quelqu'un qui était monothéiste comme Abraham, eh ben, il était contraint à rendre des comptes de tout, sur tous les plans, pour tous les péchés, au même patron, au même Dieu. Donc, on ne peut pas tricher. Les autres, ceux qui étaient polythéistes, ils servaient un seul dieu, par exemple le dieu de je ne sais pas quoi, donc dans cette religion-là, on ne peut pas tuer, le meurtre est interdit, par contre le vol, pas de souci. Lui, il avait un faible pour le vol, et il avait besoin de voler, donc il fait cette religion, il est tranquille. Et si jamais le dieu qui ne supporte pas le vol s'énerve contre lui, eh bien il va prier son dieu à lui, le dieu du meurtre, qui va aller plaider sa cause pour le dieu du vol, et tout va s'arranger, il va lui amener un corban, un sacrifice, etc., et tout ira bien. C'était ça l'idée de Avodah Zarah. En fait, c'était une manière de se permettre toutes sortes d'abominations. C'est ça ce que dit le Meiri. Le Rav Moshe Feinstein écrit la même chose dans une lettre, pas dans les Tchuvot, une lettre qui est ramenée dans le Yosef Da'at sur Sanhedrin Daf Mem Vav, que ces gens-là, les Ovdei Avodah Zarah, Mufkarim la'asot, kol ma shebelibam la'asot, c'est ça qu'on leur reproche, c'est qu'ils se permettaient de faire toutes sortes d'atrocités et de péchés. Betsem, c'est une Gemara qui le dit déjà avant. La Gemara dans Sanhedrin, sa mère Gimel Amud Bet, elle dit Lo avdu Avodah Zarah, ela le'atir lem ariyot befarasia. Comment ça se fait que les Bnei Israël ont fait Avodah Zarah dans le désert? Qu'est-ce qui leur a pris? Tu sors d'Égypte, t'as vu tous les miracles, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais Avodah Zarah dans le désert? Explique la Gemara la raison pour laquelle ils ont fait Avodah Zarah. C'est pas suite à une réflexion théologique ou philosophique où ils se sont dit non, finalement, je crois pas en Dieu, je suis plutôt polythéiste. Non! C'est pas de la croyance, c'est pas dans la tête que ça se passe. C'est pas pour ça qu'ils ont fait Avodah Zara. Dit la Gemara, lo avdu, la raison pour laquelle ils ont fait Avodah Zara, c'est qu'aider les attirer les marayot de Farasia. C'est parce qu'ils voulaient commettre Gilui Arayot. Et c'est difficile de commettre un Gilui Arayot quand on vient d'avoir la Torah, on vient de voir les Yitziat Mitzrayim, on vient de nous dire que ça y est, il faut respecter, il y a les 10 commandements, etc. C'est difficile de faire comme ça un Gilui Arayot. Comment? On vient de te dire que c'est péché, que Dieu n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'invente des dieux, on s'invente un polythéisme qui permet après de faire ce qu'on veut, sous couvert toujours de religion. C'est ça, cette idée. Donc on voit déjà dans cette phrase de la Gemara que ce que la Gemara reproche à la Avodah Zara, ça n'est pas l'appartenance à une autre religion, ça n'est pas la pratique d'un autre rite. Ce qu'on reproche, c'est justement cette débandade, c'est cette façon de se permettre tout et n'importe quoi. Le Meiri, encore dans Avodah Zara, cette fois-ci d'Afravar et Moudalev, le Meiri écrit Kol Kiour Yafé Be'enehem. Ceux qui font Avodah Zara, ils se permettaient toutes les abominations, tout était possible avec eux. On peut tout faire. Mais bien entendu, il dit toute personne qui sert sincèrement Dieu, Afal Pishéino Mikla la date, même s'il n'est pas du tout dans le cadre de la religion. Il n'a rien à voir avec le judaïsme. Bien entendu, Eino Betinze Khalila Vechas. Il n'est pas concerné par cette loi de l'Oma Aline, on le laisse dans le trou, et toutes les autres lois vilaines et méchantes par rapport aux non-juifs. Aga, avec ça, on peut peut-être expliquer beaucoup de Mahamar et Chazal, dans lesquels il est dit quiconque fait ceci, cela, qu'il ou ovait d'Avodah Zara. Et quand on analyse, on a du mal à trouver un lien entre tout cela. Ça part dans tous les sens, sur plein de péchés liés aux midot, etc. Pourquoi ça, c'est Avodah Zara, ça, c'est Avodah Zara? Plein de choses liées à Avodah Zara. On a l'habitude de dire que c'est comme le Rambam qui, dans Moreh Nevuchim, rattache beaucoup de choses à Avodah Zara. Je pense que le pshat est beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, les gens qui faisaient Avodah Zara, c'était justement pour se permettre toutes sortes de péchés. Là, encore une fois, c'est la même idée. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de cela, c'est que l'idée de Avodah Zara, c'est pas une idée de religion. C'est une idée de midot, de comportement. Et donc, si on a un goy qui se comporte bien, un goy qui est gentil, poli, éduqué, le Meiri écrit, un goy qui se comporte bien, le Meiri, dans Sanhedrin, Dafnuva, Vamoudbet et encore dans d'autres endroits, qu'un goy qui est gadour benimuseen, qui a des règles, il a un savoir-vivre, il sait se comporter, vehagun le benadam le chavero, et il se comporte convenablement par rapport à autrui, quelqu'un qui respecte les shiva mitzvot, quelqu'un qui se comporte normalement, est à considérer comme un ger toshav. Attention, même s'il n'y a pas eu Kabbalah Bebeidin, parce qu'on a toujours en tête cette idée que pour devenir Gertoshav, il faut qu'il y ait une Kabbalah Bebeidin, il faut s'engager en présence d'un Beidin à respecter les Shiva Mitzvot. Non, même sans cela, s'il respecte les Shiva Mitzvot, s'il se comporte bien, ne pas voler, ne pas tuer, etc., alors déjà, il peut avoir le statut de Gertoshav, du moins par rapport au rapport qu'on doit avoir avec lui. Cette idée du Meiri, on la retrouve aussi dans Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah dans Chidushei Sanhedrin, Nunzayin Amud Aleph, considère aussi qu'un goy qui respecte les 7 mitzvot, même sans Kabbalah au Beit Din, est à considérer comme un ger toshav. Même idée, on retrouve encore dans le Sefer Chassidim, c'est un autre Rishon, Rabbi de Chosid. Sefer Chassidim dans Siman Shin Nun Chet, lui aussi. Un goy qui se comporte bien est à considérer comme un ger toshav. Ça veut dire qu'on doit le respecter, l'aimer, l'aider, etc., etc., etc. Dans le Toafot Re'em, c'est un commentaire sur le Yireim. Lui, il veut dire que Da'at Ha'Yireim, il veut interpréter le Yireim, c'est un Rishon. Il veut interpréter le Yireim dans Siman Reish Lamed Gimel. Et il prouve que ce que dit le Yireim indique qu'il pensait, pas comme le Rambam, mais qu'il pensait qu'un goy, même sans Kabbalah au Beit Din, même sans s'engager devant un Beit Din, s'il respecte les Shiva Mitzvot, c'est déjà un tzaddik. Selon lui, c'est en désaccord avec ce qu'écrit le Rambam. Je pense que non. Je pense que le Rambam est d'accord avec ça. Tout le monde a en tête un Rambam, tout le monde pense que le Rambam considère qu'un goy qui se comporte bien, tant qu'il n'a pas accepté devant le Beit Din les Shiva Mitzvot et qu'il les fait l'Omipne Chéadato et la Mipne Shetiva Hashem Batorah, etc., il n'est pas encore tzaddik. Ce n'est pas encore un chassid du mot Taolam. C'est marqué comme ça dans le Rambam. Et tout le monde le comprend texto tel que c'est écrit. Je pense que ce n'est pas ça le pshat. D'abord, on a le Mashmaot dans le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, dans Mabakama, Perek Dalet Mishnah Gimel, où il ne ressort pas comme ça. Du moins tel que l'interprète le Torah Tmima dans Shemot Raf Aleph Ot Resh Ein Zayin. Torah Tmima montre que dans le Rambam, même si un goy n'a pas fait une Kabbalah Bebedit, un goy qui se comporte bien déjà, il n'est pas concerné par ces lois qui mettent à part les lois discriminantes un petit peu comme ça à l'encontre des goyim, il n'est pas concerné. Donc le Rambam certes écrit, il y a un Rambam qui écrit dans Echot Melachim Perekret al Chayud Aleph, le Rambam écrit qu'un goy qui respecte les Shiva Mitzvot, sans s'y être engagé en présence d'un Beit Din de 3 rabbins juifs, ça n'a pas de valeur, il n'est pas pour autant en guerre toshav, il n'est pas pour autant considéré tzaddik. Ce n'est pas encore un chassid du mot haolam. Ok, c'est un chacham, mais c'est tout, sans plus. Pareil s'il fait les mitzvot, mipne echea da'ato, parce que tiens, il pense que c'est bien. Mais Il ne faut pas faire parce que tu penses que c'est bien. Il faut faire parce que c'est ordonné dans la Torah et que tu acceptes que puisque la Torah, Dieu a dit à Moïse, il a dit, etc., il a écrit dans la Torah, alors je le fais. Rora, c'est étrange cette idée. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un goy qui considère qu'il est bien de ne pas voler, il est bien de ne pas tuer, et donc il se comporte en adéquation avec sa pensée, sa philosophie, et il se comporte bien. Pourquoi il ne serait pas tzadique celui-là? Pourquoi lui le repart avec le Rambam? Quel est son problème? Et pourtant c'est marqué comme ça dans le Rambam. Et ça, dans le monde entier, tout le monde comprend ce Rambam. Désolé, c'est marqué comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous, on a un problème. On a un problème, c'est qu'on a fait, tout à l'heure dans la préface, on a dit que rien ne doit aller à l'encontre du bon sens. Or, ça va big time à l'encontre du bon sens. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Un goy qui se comporte parfaitement, il n'a jamais volé, jamais tué, jamais rien fait de mal, il est super gentil, il fait du chesed avec tout le monde, et tu vas dire que c'est un rachat, tu vas dire qu'il n'a pas olam haba, mais quelle injustice! Bien sûr que c'est injuste, si c'est ça la Torah est injuste. Lo yitachen davar kaze. Alors pourquoi le Rambam écrit ça? Alors j'ai cherché longtemps, pendant des années. Bon, Hachem, j'ai trouvé... une explication très sympathique. C'est qu'en fait, le Rambam n'écrit ça que par rapport à un goy. Et il écrit par ailleurs que lorsqu'il écrit goy, qu'il s'agit d'un oved avodah zara. Il dit quand, dans le livre Mishneh Torah, j'écris le mot goy, sache, ça veut dire oved avodah zara. Gimel vav yud, ça veut dire qu'on parle ici d'un oved avodah zara. Sinon, il y a d'autres appellations. Un goy qui ne fait pas avodah zara, qui respecte les sept mitzvot, il appelle ça un ben noar. Et il y a une troisième appellation, ger toshav. Ger Toshav, il dit dans la loi pour devenir Ger Toshav, c'est celui sur lequel la Torah elle dit qu'il faut être mechayé auto, c'est-à-dire qu'il faut l'aider, lui faire du chesed, tzedaka, le compter parmi nous, etc. Il est goy, on ne peut pas se marier avec, on ne peut pas boire son vin, etc., etc. Mais il faut être gentil et l'aider. C'est qui ce Ger Toshav? Dit le Rambam, un goy qui veut devenir Ger Toshav, il doit être mekabel les Sheva Mitzvot devant un Beddin. S'il fait tout seul comme ça, moi je pense que c'est bien, sans passer par le Beddin, ça vaut rien. C'est bizarre cet halakha, ma pitom. Apirouchou, c'est qu'il a précisé un goy. C'est-à-dire quelqu'un qui avant enfreignait les Sheva Mitzvot. Quelqu'un qui c'était un terroriste. Il tuait des gens, il volait, il tuait. Quelqu'un qui enfreignait les Sheva Mitzvot. Il veut changer de camp. Il veut maintenant dire, je veux devenir Ger Toshav, je veux être accepté chez les Juifs, je veux venir en Israël. Tu veux être Ger Toshav, tu dois t'engager devant le Beit Din à respecter les Sheva Mitzvot. C'est pas tu viens sur un coup de tête comme ça, parce que demain tu vas encore changer d'avis. Il faut un engagement devant le Beit Din à dorénavant s'engager à respecter les Sheva Mitzvot. Ça c'est le digne du Ger Toshav. Mais Aliba Dehemet, le Rambam est d'accord, qu'un non-juif qui... Miyom Omdo al Da'ato, depuis le jour où il a commencé à comprendre ce qui se passe sur Terre, depuis sa naissance, il a toujours respecté les Sheva Mitzvot, aucun souci. Vadaï que c'est un tzadik. Vadaï shesh lo chelek le olam haba, ce goy-là. Au contraire, il a toujours été tzadik. Le Rambam, en fait, ne parle ici que du Baal Tshuva. C'est pour ça qu'il l'a appelé goy au départ et pas Ben Noar. Le goy, un goy, un oved avodah zara, il veut arrêter. Tu dis que tu vas arrêter, ok, alors tu t'engages au moins. On ne te fait pas confiance comme ça. Tu t'engages devant le Beddin. Et cette idée-là. Je l'ai trouvé dans le Chemdat Israël. Le Chemdat Israël, c'est le Kli Chemda. Il est connu plus pour son commentaire sur la Torah Kli Chemda. Le Chemdat Israël, c'est le Rav Meir Dan Plotsky. C'est un rabbin qui est mort en 1928. J'ai trouvé ça fabuleux. Je me suis dit, il faut que je regarde, c'est quand son Yurtzeit. Et qu'est-ce que je vois? Son Yurtzeit, c'est ce soir. C'est le Sinisan. Et il écrit, le Chemdat Israël, il écrit... que lorsque le Rambam écrit qu'il faut Kabbalah, Bevet Din, etc., c'est uniquement pour celui qui avant enfreignait les Sheva Mitzvot. Mais quelqu'un qui a toujours respecté les Sheva Mitzvot, il est déjà tzaddik. Il n'a pas besoin de Kabbalah, Bevet Din. Donc un goy qui aurait vécu toute sa vie en marge du judaïsme, sans rencontrer le Bevet Din, et il a toujours respecté les Sheva Mitzvot, Vadaï c'est un tzaddik, Vadaï il va au Gan Eden, il a sa part au Olam Haba. C'est comme ça qu'écrit le Chemdat Israël, et il le prouve à partir de différents écrits du Rambam. Il y a un Rambam dans Hirot Melachim Perek Yud Alachayut qui écrit. Sur un Ben Noar, donc c'est pas un Ger Toshav, il écrit que mitzvah le achyoto. Comment ça? La mitzvah le achyoto, ça concerne le Ger Toshav, et t'as dit qu'il y a une différence entre Ben Noar et Ger Toshav. Oui, Ger Toshav, c'est celui qui était oved avodah zara et qui est devenu Ger Toshav. Mais si tu es Ben Noar de naissance, pas de souci. C'est uniquement pour le, entre guillemets, Baal Tshuva. L'assassin, voleur, criminel qui fait tshuva et qui arrête, lui, il a besoin d'une Kabbalah bebedin. Encore d'autres preuves dans le Rambam, dans le Rot Melachim Perigimel al-Khayud, où il appelle un Ben Noach, il l'appelle Ger Toshav, alors qu'il n'est pas Ger Toshav, alors qu'il n'a pas eu de Kabbalah, il s'est pas engagé à respecter les Sheva Mitzvot, et malgré tout, il l'appelle Ger Toshav. Donc on voit, il ramène plusieurs preuves pour ça. Le Chemdat Israël, dans le Kuntras Ner Mitzvah, dans Chelek Alef, Dav Kuf Alef Amud Bet, Ot Lamed Hei.
Pourquoi
Mitzvah l'archioto, c'est de l'aider, le soutenir, lui faire des cadeaux, s'il est pauvre, lui faire tzedaka, le maintenir, le trouver un travail, l'aider comme un juif. Voilà, il faut l'aider comme un juif. Ça reste un goy, on n'a pas le droit de se marier avec. S'il a touché du vin, stam yeinam, le vin n'est pas kasher, etc. On ne prend pas son vin, il reste les mêmes règles. C'est pas du yaïn nesser, parce qu'il ne fait pas avodah zara, mais on a quand même un interdit de se marier avec lui. Les juifs ont une mission à part. On doit maintenir la Torah et le judaïsme, on n'a pas le droit de se marier et de se mélanger avec les non-juifs. Néanmoins, il faut quand même l'aimer et le respecter. On reviendra sur ce point. Il y a encore d'autres rishonim et des acharonim qui pensent comme ça, que dès qu'on respecte les shiva mitzvot, on est déjà inclus dans le groupe des gentils. Ce qui va, je vous l'avoue, à l'encontre de ce que la majeure partie des rabbins sur terre pensent. Quand on leur demande d'expliquer ce Rambam, ils ne le comprennent pas comme le Chemdat Israël. Dit simplement, c'est marqué, tant qu'il n'y a pas Kabbalah, il ne s'appelle pas encore, c'est pas encore un sadique. Rabbi Avraham ben Rambam semble suivre aussi l'opinion de son père, comme souvent d'ailleurs, c'est machma comme ça dans Sefer HaMaspik, page 27. Il y a Rabbeinu Yehonatan, un autre Rishon aussi, ramené dans l'Hashtamek Ubetzet sur Baba Kama d'Aflametra Temudalef. Et l'Hashtamek Ubetzet aussi pense comme ça, qu'un gentil goy n'est pas concerné par toutes ces lois dans le Talmud qui vont à l'encontre du goy. Rav Elia Bachour, là c'est déjà charnière, c'est déjà les acharonim. Dans la deuxième Akdama de son Sefer Mesoret HaMasoret, il écrit Ein Lahem, en parlant des chrétiens, Ein lahem, ils n'ont pas din goyim aniskarim bagmara. Les chrétiens ne sont pas concernés par le din sévère qui est écrit dans la Gemara à l'encontre des non-juifs. Vezet pashut beposkim ou besvara. C'est une chose évidente. Personne ne peut dire l'inverse. C'est évident qu'un chrétien n'est pas concerné par ce qui est écrit dans la Gemara de vilain, de vache, de sévère vis-à-vis des non-juifs. Ça ne concerne uniquement les barbares ofdei avodah zara d'époque. Le Maharas Reot écrit la même chose aussi dans son Kuntras Tiferet Israël, page Taf Peitet, à la fin du Chelek Alev de Kol Kitve. Il y a aussi le Rav Klatskin dans le Shoot Imre Shefer, Siman Tzadik Bet. Il écrit pareil aussi la même chose. Il y a le Rav Kook dans Igrod Re'aya, écrit pareil, dans Chelek Alev Siman Petet, c'est page Tzadik Tet, il écrit aussi, un goy qui se comporte bien n'est pas concerné par toutes ces lois. Il se répète aussi dans son shoot, dans le responsable du Rav Kook, shoot Mishpat Kohen, dans Siman Nunchet, Siman Samech Alef, là-bas il parle par rapport à l'audit Elahem Chanaïa Bekarka. Il y a le Rav David Tzvi Hoffman, lui aussi écrit, dans un livre qui s'appelle Der Shulchan Aruch, c'est un livre qu'il a écrit en allemand, qui n'a jamais été traduit. Avis aux amateurs, si quelqu'un veut le traduire de l'allemand en français, Baruch Haba, ou en anglais, ou en hébreu, ou en ce qu'il veut, il n'existe pas en d'autres langues, il existe qu'en allemand, il a été imprimé à Berlin en 1894, et depuis, malheureusement, il n'a pas été traduit. Cerise sur le gâteau, caractère gothique, c'est insupportable à lire. Mais lui aussi écrit la même chose. Il y a aussi le Rav Shimshon Raphael Hirsch, un autre allemand. Rav Shimshon Raphael Hirsch, alors lui pour le coup il a écrit ça en allemand, mais il ne l'a jamais publié, et ça n'a jamais été imprimé en tant que tel. Par contre, ça a été traduit et publié en anglais. Donc ce livre-là, il n'existe qu'en anglais. Judaism Eternal, c'est volume 2, page 176 et suivante, imprimé à Londres en 1956. Ça a été traduit par le Rav Yishai Grunfeld, c'est un rabbin anglais. Il a traduit donc des écrits du Rav Shimshon Raphael Hirsch, et là-bas aussi il écrit la même idée encore une fois, qu'un goy qui se comporte bien, qui respecte Shiva Mitzvot, c'est déjà un tzadik pour cela, il n'est pas concerné par toutes ces lois. Pareil, Reprime David Alevi, dans son Aselecha Rav, dans le Shoot Aselecha Rav, Chelektet Siman Lamedbet, il écrit que de nos jours, les goyim ne sont pas des Ovdei Avodah Zara, et donc si on voit un texte qui dit que, bon, il faut quand même être gentil avec le goy, Mipne Darke Shalom, pour éviter de se friter avec eux, etc., il dit ça, c'était peut-être valable à l'époque, il dit, mais de nos jours, il faut accomplir le chesed avec les goyim, ipne chova moussarit, c'est parce que la morale l'impose, c'est un gentil goy, il faut se comporter gentiment avec lui. Il écrit la même chose aussi dans Chelekret, Siman Samechet, on s'est mis d'accord tout à l'heure sur quelque chose, merci de ne pas l'oublier. Il y a aussi dans le shoot Siach Nahum du Rav Rabinovitch, Siman Tzadik Gimel, la même chose encore une fois. Le Rav Yitzchok Isaac Alevi Herzog, grand rabbin d'Israël, lui aussi écrit dans son livre Techukal Israël al Pia Torah, Chelek Alev, à partir de la page 12, et dans Chelek Gimel, page 278, c'est l'édition de Jérusalem 1989, je crois que c'est la seule. Il écrit encore une fois la même chose, les goïms d'aujourd'hui, majoritairement, du moins dans les pays civilisés, en Europe, les goïms se comportent bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de goïms qui se comportent mal, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des assassins, qu'il n'y a pas des terroristes, on sait qu'il y a des terroristes chez les goïms. Maïf Charla Assot, il y a des assassins, il y a des voleurs, il y a des gens qui commettent toutes sortes d'abominations, des adultères, même peut-être des sacrifices humains, j'en sais rien, j'espère que non, du moins pas en France. En tout cas, ça existe, mais ça n'est pas la masse des goïms. Stam un goï dans la rue, monsieur tout le monde, n'est pas soupçonnable de toutes ces abominations, en principe c'est un gentil monsieur. Il y a aussi une lettre du Tzitz Eliezer, le Rav Waldenberg, le Tzitz Eliezer, il écrit une lettre à Prime David Alevi, imprimée au début de son Sefer, Ben Israël Lahamim, Yerushalayim 1954, ça a été édité, c'est pages 16 et 17. Encore un point qui souvent est cité, avedato, la aveda du goy. Un goy a perdu un objet. Je trouve l'objet. On me dit, oh, si c'est un goy, tu peux le garder. Vous avez déjà entendu ça, j'imagine. Tout le monde a déjà entendu ça. L'origine, on a une Gemara dans Sanhedrin, à Ivar Amoudbet. C'est marqué celui qui rend la aveda d'un goy, à la vakatouvomer, les mans fotarava et tatsmea, papapi papapa. Bref, il ne faut pas rendre l'objet perdu d'un goy. Le Meiri écrit déjà, le Meiri dans Baba Metzia, Chavzayin Amoudalef, dans Avodazara Chavav Amoudalef, et dans Sanhedrin Aïvav Amoudbet, dans ces trois endroits, le Meiri écrit que ça ne concerne que les barbares de l'époque. C'est uniquement les Ovdei Avodazara, mais pas les Notsrim, pas les chrétiens. Dis-nous, on vit parmi les chrétiens, sont des gens civilisés, pas de soucis. La vérité, c'est qu'à son époque, les chrétiens n'étaient pas si civilisés que ça, mais ils étaient déjà beaucoup plus que les barbares de l'époque de la Gemara.
Le Basouk, il n'est pas un Achicha, dans la
Alors, on va y venir, mais il y a un autre passouk encore. J'y arrive. Je vais essayer de parler d'un maximum de choses. S'il y a des choses qui manquent, venez me voir à la fin, on en parle. Si c'était ça, la Gemara n'aurait pas dit que c'est ça le problème. Elle n'aurait pas dit à cause de l'autre passouk de l'Eman Sfot Arava et Tatsmer. Elle aurait dit, pas, je ne vois rien que ça, c'est tout. Dans le Sefer Chassidim, Siman Shin Nun Chet, Sefer Chassidim écrit qu'un goy qui respecte les Shiva Mitzvot, on doit lui rendre l'objet perdu. L'objet qu'il a perdu, on doit le lui rendre. Vetauto asur, ça aussi c'est encore un grand problème. Taout akum, un goy qui s'est trompé quand il a rendu la monnaie. Est-ce qu'il faut lui faire remarquer ou est-ce que je peux empocher joyeusement et gaillardement? Alors là, la race stipule que le goy qui s'est trompé, il m'a rendu trop de monnaie, il y a chomri, on a le droit de garder la monnaie s'il n'y a pas de trilou lachem en jeu. Attention, là aussi, dit le Sefer Chassidim, c'est que pour le Oved Avodazara. Sefer Chassidim Siman Shinun Chet, mais un goy qui se comporte bien, un gentil goy, et c'est la majorité des goyim qu'on a en France aujourd'hui. Un gentil goy, on doit lui rendre ta'outo. On doit lui rendre. S'il a rendu trop de monnaie, c'est comme un juif. Il faut lui rendre. C'est pas mon argent. Je dois lui rendre. C'est pas à moi, c'est à lui. Pareil, s'il perd un objet dans la rue, je dois lui rendre. Et il ajoute le Sefer Chassidim. Écoutez bien cette phrase. Sefer Chassidim, il dit qu'un goy gentil qui se comporte bien, il faut l'honorer, tzarech lechabdo, lui faire du kavod. Yoter me Israël she'eino osek batora. Il faut honorer un goy qui respecte les Shiva Mitzvot, il faut le respecter plus qu'un juif qui n'étudie pas la Torah. Si un juif fait toutes les Mitzvot, sauf la 613e, il ne fait que 612, il n'étudie pas la Torah, il mérite moins de kavod qu'un goy qui respecte ses Shiva Mitzvot. Un goy qui se comporte bien, qui est honnête, etc., il faut lui faire du kavod plus qu'à un juif qui néglige la mitzvah d'étudier la Torah. Il est ramené dans la halakha, ce Sefer Chassidim, par le Knesset Agdola, Rochel Mishpat Siman Rej Samerfav, dans la God Bet Yosef Ot Aleph. Et c'est pas comme le Bet Yosef, parce que le Bet Yosef écrit qu'on n'a pas à rendre la Aveda à un goy. Bien on essaiera de parler de ça aussi tout à l'heure. Et c'est écrit aussi pareil dans le Be'er Agola, dans Shulchan Aruch, Rochel Mishpat Siman Rej Samerfav Ot Bet. Il y a encore beaucoup d'autres rabbins qui parlent de ça. Il y a le Rav Yitzhak Ber Levinson. Je ne sais pas s'il faut dire le Rav, pas le Rav, c'est un rabbin un petit peu tendancieux, certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Il était un petit peu masquille comme ça sur les bords. Dans son Beit Yehuda, Chelek Aleph Perek Ayin Aleph, dans la note en bas de page, la note sur la page 153, et aussi dans son autre livre qui s'appelle Zerubbabel, Chelek Bet, page 106, il ramène un smag, donc c'est pas pour lui, c'est pour le smag qu'on le ramène, il ramène un smag dans Mitzvat Ese Siman Ayin Dalet, qui dit qu'il faut rendre la Aveda à un goy. Un goy qui a perdu sa Aveda, le smag c'est un Rishon aussi, il faut lui rendre sa Aveda, son objet perdu. Le smag indique que dans les Yerushalmi de Masechet Baba Metzia d'Afret Amud Aleph, il y a tout plein d'histoires où on voit des rabbanim, à l'époque de la Gemara, qui ont rendu des objets perdus à des goyim. Et donc il dit, voilà, on est obligé, on est tenu de rendre l'objet perdu du goy. Là-bas, il y a une histoire dans l'Yerushalmi avec Rab Shmuel Bar Susratai, un rabbin, qui a trouvé un bijou qui appartenait en fait à la reine. Et la reine avait publié, elle avait dit, attention, j'ai perdu un bijou, celui qui me le rend dans les 30 jours, je le récompense comme ci et comme ça. Celui qui le rend après 30 jours, il l'a gardé un peu pour faire des photos, des selfies avec ses copains. Celui qui fait ça, je lui coupe la tête. Après 30 jours, je t'attrape avec, on te coupe la tête. Avant 30 jours, tu le rends, t'es récompensé. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Shmuel Bar Susratai? Il a pris, il a attendu que 30 jours passent. Le 31e jour, il est venu rendre à la reine. Enfin, je comprends pas. Quand j'ai dit après 30 jours, c'est pour les gens qui ont tenté de voler. Toi, tu veux le rendre, pourquoi tu l'as pas rendu hier? Il a dit, parce que moi, je le rends pour la mitzvah, parce que j'ai peur de Dieu, parce que Dieu m'a dit de rendre un objet perdu. Je le rends pas parce que j'ai peur de vos menaces. Je le rends parce que j'ai une mitzvah de rendre. Il croira, si c'était un inyan de Chilul Hashem ou je sais pas quoi, etc., pas la peine de rendre. Même plus que ça encore. Si tu rends, alors rends dans la bonne période. Pourquoi tu attends la date de péremption? Rends tout de suite et reçois la récompense. Non. Il dit, je veux pas de récompense. Et il dit, c'est la mitzvah. Dieu m'a ordonné. Je le fais parce que j'ai irat Hashem. Qu'est-ce que tu as irat Hashem si Dieu t'a pas ordonné de rendre la Aveda à un goy? Et Lama est considéré que Dieu lui avait ordonné de rendre la Aveda au goy. Il y a aussi un mandamar comme ça dans la Mechilta. Il y a une opinion dans la Mechnita, dans Masechta de Kaspa, par Shachaf, il y a marqué Shor Yifra, quand il y a marqué, il y a plusieurs parachutes dans la Torah qui parlent de rendre l'objet perdu. L'une d'entre elles parle d'un taureau qui se serait égaré. Et c'est marqué Shor Yifra, quand tu verras le taureau de ton ennemi qui s'est égaré. Et là-bas, cette opinion dit Shor Yifra, c'est qui? C'est qui ton ennemi? Zé, Goy, Oved et Lilim. C'est un Goy qui fait Avodazara. C'est ça l'ennemi. Donc d'après cette opinion-là, il y aurait une mitzvah de rendre un objet perdu, même à un goy qui fait avodah zara. Alors c'est pas la halakha comme ça, c'est pas lui qu'on retient. Néanmoins, du fait que dans la marloquette là-bas, il précise goy oved avodah zara, mashma que la marloquette n'est que là-dessus, mais que sur un goy qui se comporte bien, pas de souci, tout le monde serait d'accord qu'il faut lui rendre. Il y a dans le Mishneh Halakhot, le Rav Klein, c'est un Rav contemporain, grand Talmid Chacham aux États-Unis, chassidique. Le Rav Klein écrit dans Mishneh Halakhot, relektet siman shinayin alef et shin pei alef. Il écrit qu'il n'est pas d'accord avec le shoot melamed leohil, il n'est pas d'accord avec le Torah Tmima, qui disent qu'il faut rendre un objet perdu au goy. Il dit bien sûr que non, on ne rend pas l'objet perdu au goy. Il dit d'ailleurs, aujourd'hui, 21e siècle, il n'y a pas un seul goy qui respecte les Shiva Mitzvot dans le monde entier. Ah bon? Je ne sais pas d'où il sait. Si tu n'as pas rencontré, ben, ne dis pas. Moi, j'ai rencontré. Toi, tu ne sais pas. Ne dis pas. D'où tu sais qu'il n'y a pas. Tu n'as pas été vérifié. En tout cas, il dit il n'y en a pas un seul. Il dit ça n'existe pas un goy qui fait les Shiva Mitzvot aujourd'hui. Il dit et même si tu en trouvais un, c'est de la pure théorie, il ne faut pas lui rendre sa Aveda. Même s'il respecte les Shiva Mitzvot, on ne lui rend pas sa Aveda. Un goy, on ne lui rend pas la Aveda. Ça, c'est ce qu'écrit le Rav Klein dans son shoot. C'est pile et plaim parce que c'est contre ce qu'écrivent les Rishonim. On a cité le Smag, le Sefer Hasidim, le Meiri, même dans les Acharonim, Raman, dit le Be'er HaGola, etc. Il va à l'encontre des Rishonim. Comment on peut dire une pareille chose? Bien entendu, il a sur quoi s'appuyer, mais je pense que ce sur quoi il s'appuie, c'est une erreur de compréhension. Emet, c'est que, qu'est-ce qu'il y a dans le background derrière? Il y a l'idée du Rambam, que tant que t'es pas Mekabel devant un Beddin, ça s'appelle pas Shover Shema Mitzvot, etc., etc. Le Rambam lui-même écrit dans Echot Gzela Ve'aveda, Perek Yudalef Alacha Gimel, et c'est ramené dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il ramène ça dans l'Alacha. Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, Siman Rech Samer Vav, au début, c'est Yifalef. Il écrit que la raison pour laquelle on nous dit de ne pas rendre l'objet perdu d'un goy, pourquoi? Mipnei sheu marzi ki ederish olam. En restituant l'objet perdu d'un goy, tu vas soutenir la mauvaise cause, tu vas soutenir rishei olam, les impies, les gens terribles du monde. Voilà ce que tu vas faire. Parce que ce goy, c'est un vilain et il fait du mal sur terre, donc ne le soutiens pas financièrement en lui rendant son objet perdu. Ben oui, ça se fait pas. Sinon, tu participes au crime. Imaginez un terroriste qui, juste avant d'aller commettre je ne sais quoi, avant un attentat, il va aux toilettes et il fait tomber sa kalachnikov. Moi, je passe après, je dis, monsieur, vous avez oublié ça. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Mais à Shavat Aveda. Non, pas à Shavat Aveda dans ce cas-là. C'est riche et olam. C'est quelqu'un qui va massacrer le monde. Il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas lui restituer ce qu'il a perdu, même si c'est de l'argent. Après, il va acheter des munitions, etc. etc. Donc, il ne faut pas l'aider dans ce cas-là. Le Be'er HaGola écrit dans Shulchan Aruch là-bas que Mashmat Shulchan Aruch, qui écrit cette svara du Rambam, que la raison pour laquelle on ne rend pas, c'est parce que Marzi qui est dériché au lame, Mashmal Juranaur, que c'est uniquement dans un Oved Avodazara, c'est uniquement dans un vilain, c'est uniquement dans un goy criminel et assassin. Mais si c'est un goy gentil et poli, bien sûr, on lui rend sa Aveda, ça serait l'opinion de Juranaur. Il y a le Rabbi Yaakov Abouchatsira, vous connaissez ça, y a-t-il des Marocains dans la salle? Rabbi Yaakov Abouchatsira, c'est le grand-père de Baba Saleh. Il écrit dans son shoot Yoru Mishpatecha le Yaakov, Siman Rav Gimel. Il faut savoir que Baba Saleh, c'est pas juste la Kabbalah, le tapis volant et tout. Baba Saleh, il a étudié la Gemara. C'est pour ça qu'on dit Abou Khatsira. C'est le nom du grand-père. Abou Khatsira, c'est Milachon tapis volant. Le Baba Saleh, il a étudié la Gemara et son grand-père aussi. Baba Saleh était Rosh Yeshiva. Son grand-père a écrit le shoot Mishpat Yoru, Mishpat Echa Leyakov. Dans Siman Chav Gimel, il écrit qu'il n'est pas d'accord avec le Maté Shimon Siman Ainbet et il dit la halakha est sur ce point comme ce qu'écrit le Shulchan Aruch. Et dans Shulchan Aruch, c'est écrit que la raison pour laquelle on ne rend pas, c'est parce que Marzik est dériché olam, comme a écrit le Rambam. Si c'est ça la raison, ça veut dire qu'un goy qui se comporte bien, on doit lui rendre la Aveda. Selon lui, c'est l'opinion de Shulchan Aruch. Afalpi que dans le Beit Yosef, il n'écrit pas comme ça. Il y en a eu pour les Marocains, il en faut pour les Tunisiens, pour les Djerbiens. Rabbi Khalfon Moshe Akohen. Il écrit dans Shut Shoel Venisha, Chelek Bet, Choshen Mishpat, Siman Yod Gimel. L'écrit de nos jours, les goyim ne sont pas des ovdei avodah zara, et on est obligé par la halakha de leur restituer un objet perdu. On n'a pas le droit de le garder ou de faire comme si, etc., etc. Comment ça se fait que le Rav Klein va à l'encontre de tous ces grands, va à l'encontre de ces rishonim, ces acharonim, makara? Il faut comprendre, mais là c'est beaucoup trop long, on n'aura pas le temps de parler de ça, mais je vous donne juste une piste d'idée. Il faut comprendre que le Rav Klein d'abord, c'est un Rav chassidique. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas un hasard. La majeure partie des rabbins qui iront fermement à l'encontre d'une ouverture vers le goy sont, on va dire, d'obédience chassidique. Pourquoi? Pourquoi? Les chassidim travaillent beaucoup sur Kedusha Traye à Yehudi. Il faut que la vie juive soit Kedusha, pas juste je fais les mitzvot de manière sèche et c'est tout. Il faut rentrer de la Kedusha dans chaque mitzvah, il faut, etc., etc. C'est bien, il faut cultiver cette Kedusha. Même si on n'est pas chassid, il faut le devenir sur ce point. Cependant, malheureusement, le revers de la médaille, c'est que parfois, ça peut entraîner que, valorisant tellement la Kedusha, on regarde avec mépris et dédain la vie du non-juif qui, elle, est totalement dénuée, mamache, mais alef ataf de cette Kedusha. Il a rien. Moi, je fais mon Shabbat ou mon Yom Tov, j'essaye de rendre ça Kadosh, lui, il fait même pas son Shabbat et son Yom Tov. Alors oui, il va rendre Kadosh quoi que ce soit. Ce problème-là fait que, parfois, souvent, dans les milieux chassidiques, on a tendance un peu à trop mépriser le goy. Chez l'Oka Halacha, on ne devrait pas. On devrait se dire, le travail du juif, c'est de se performer et d'arriver à un niveau de Kedusha, mais Dieu ne demande pas ça au goy, alors laisse-le tranquille, il faut le respecter pour ce qu'il est. Et c'est un problème, c'est difficile. Tout ça, évidemment, aidé du fait que le Rambam écrive que tant qu'il n'y a pas de Kabbalah, Bifnei Beis Din, etc. Donc, ça donne bonne conscience. Le Rambam dit que ça ne va pas, etc., etc., etc. Il y a aussi... Toutes les croyances mystiques jouent aussi dans ce sens-là. Il y a chez les juifs des juifs mystiques et des juifs anti-mystiques. Pas que chez les chassidim, il y a des non-chassidim qui sont aussi mystiques. Mais le fait de donner une importance à la mystique, forcément, détache un petit peu le juif du rapport avec le réel. On a moins le réflexe de se dire, est-ce que je suis censé quand je fais ça? Quand j'ai l'habitude de faire toutes sortes de choses qui m'échappent totalement, bon, mais j'ai l'habitude. Et donc, il peut y avoir, ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, je vois là-haut, en regardant la montre, le Rav Abouchatsira, si je ne me trompe pas, qui nous regarde d'en haut, et qui m'indique l'heure, je sais, je me dépêche, le fait de faire plein de choses sans trop comprendre, ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on peut avoir tendance à considérer, à imaginer une morale divine qui ne serait pas parfaitement en adéquation avec la morale humaine. Et ça, c'est pas bien. Ça, il faut pas. Donc oui, il faut travailler dans le sens de la chassidoute, de ne pas se contenter des mitzvot de manière sèche comme ça, juste fais la mitzvah et c'est fini et basta. Il faut que la mitzvah pénètre la personne, il faut devenir un homme de mitzvah et un homme de Torah, et donc s'élever dans la Kedusha, mais tout en s'élevant, se rappeler que même si le goy reste en bas sur cette échelle-là, dans son échelle de valeur, chez lui, dans ce que Dieu lui demande, il est très bien tel qu'il est s'il respecte les Shiva Mitzvot, et donc il faut le respecter pour ça. Il y a encore une grande sugya. On ne pourra pas rentrer dedans, Beprutatot, on ne pourra pas rentrer dans les moindres détails. Très brièvement, c'est la sugya de Amalek et des Shiva Umot, où Dieu nous ordonne de zigouiller tout le monde. Vas-y, tu vas voir Amalek, tu tues les sept peuples quand on est arrivé en Israël. Tu les. Comment ça, tu les? Il y a peut-être des gens gentils dedans. Pourquoi tu les tues? Alors vous allez me dire, oui, mais on a vu dans le passage qu'ils étaient Ovdei Avodah Zara, donc forcément. Ok, mais peut-être dans tout le peuple de Ovdei Avodah Zara, peut-être qu'il y en a un qui a fait tchouva, un qui est gentil. Un, il dit non, moi je tue pas. Là, moi je fais pas les sacrifices humains. Peut-être qu'il y en a un. Alors comment tu peux dire il faut tuer quoi? Tu vas tuer aussi le tzadik, ras v'shalom. C'est injuste une chose pareille. Il faut savoir que le Rambam écrit, c'est écrit dans le Rambam explicitement. On n'a pas Shulchan Aruch sur les halachot de Amalek. Le Rambam écrit et sur Amalek et sur les Shiva Umot. Dans Ikhot Melachim, Perek Vav Alachad Dalet. Le Rambam écrit que c'est uniquement si lo hishlimu. S'ils n'ont pas voulu faire la paix avec nous. S'ils n'ont pas voulu s'engager à respecter les Shiva Mitzvot. Mais si, c'est Goïm quand on arrive en Israël, ou bien Amalek, dit, tu sais quoi, moi je veux pas faire Avodah Zara, voilà, je m'engage à respecter les Shiva Mitzvot, j'arrête de tuer les enfants dans les sacrifices pour le Baal, etc. J'arrête de tuer les enfants, j'arrête de voler, j'arrête de tuer, j'arrête ceci, j'arrête les Shiva Mitzvot, je respecte, je deviens gentil, je deviens poli, je respecte, on va dire, les règles de base comme ça de l'humanisme, on va se comporter normalement comme un être humain. J'adhère à cette chita-là. Dès lors, dit le Rambam, on doit pas les tuer. Ceux qu'on doit tuer, c'est ceux qui s'entêtent à rester dans la Avera, à rester, à continuer à être assassin. En d'autres termes, de qui on parle dans ces Shiva Umot et d'Amalek? On parle des terroristes. Les terroristes que nous connaissons aujourd'hui, c'est eux. C'est des gens qui veulent tuer. Ils ne veulent pas se ranger et dire « Non, non, j'arrête, je deviens gentil. » Non, c'est des gens qui veulent faire le mal. C'est sur eux qu'il a été dit qu'il faut les tuer, pas sur des gens normaux. Il y a encore une halakha, Shor Shel Israël, Shenagar, Shor Shel... Vous savez, c'est un taureau qui appartient à un juif qui encore un taureau qui appartient à un non-juif. On dit « Il est pas tour. » C'est Mishnah dans Baba Kama, la Medzayin Amudbet. Ça aussi, c'est bizarre. Dans le Rambam, dans Pirush Mishnayot, commentaire de la Mishnah, Baba Kama, Perek Dalet, Mishnah Gimel, il écrit, il ne faut pas s'étonner, on parle ici de barbares, on parle de gens criminels, barbares et assassins. Et dit, ces gens-là, qui ne se sont pas parfaits au niveau des Trunot à Enoshiot, ce ne sont même pas des êtres humains. Ce sont des terroristes et des barbares. Il ne faut pas avoir pitié de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va leur payer quand j'ai encore né son tour? Si on peut l'éviter, on l'évite, bien entendu. Encore une fois, c'est comme le terroriste du XXIe siècle. Le, le Mirkevet à Mishneh aussi, il déduit ça dans le Rambam, dans Mishneh Torah, dans Niskemamon Perekret Alachahé, que le Rambam considère que cette loi ne s'applique que pour le Hakum, que pour le Oved Avodazara barbare. Le Meiri écrit déjà la même chose dans Baba Kama, la Medzayan Amoudbet, et il est ramené par l'Hachtemekou Betzet aussi dans Baba Kama d'Aflametra Demoudalev. Le Maharal de Prague écrit aussi la même chose dans Beragola Pashkouf Memhe, le Torah Tmima dans Parashat Kitetse, Perekravbet, Otravbet, et encore beaucoup comme ça, suivent la même idée. Que toutes ces choses-là, en fait, ne concernent que le goy criminel et assassin et méchant et vilain. Mais un goy gentil n'est pas concerné. Il faut savoir, c'est important de pointer ce qui est faux. Je m'attarde à pointer chaque Mahamar Chazal et dire ça, voilà, c'est pas ça que ça veut dire, mais ça, c'est important de souligner le shéker. On a l'habitude toujours de se dire, non, c'est bien, il faut positiver. Moi, avec Carrefour, je positive, je vois tout en rose. C'est bien de voir la vie en rose, mais il faut savoir dénoncer les mensonges, dénoncer ce qui est faux, ce qui va à l'encontre de la Torah. Le Maharal de Prague écrit, dans son commentaire sur Avot Perek Bet, dans la Mishnah d'Amashet Hashiv l'Apikoros, le Maharal écrit, de la même manière qu'il y a une mitzvah, d'étudier la Torah parce qu'elle est émet, il faut étudier la Torah et apprendre le émet et comprendre le émet, il y a aussi une mitzvah de dénoncer le shéker, de pointer ce qui ne va pas. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas de la vraie Torah. Ça, c'est du shéker. Il faut arriver à souligner le shéker et à le dénoncer parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Sinon, si on ne le dénonce pas, même si on ne l'applique pas, forcément, il va s'infiltrer tout doucement dans le peuple et dans la croyance du peuple. Le Rav Kook écrit, je vous cite beaucoup le Rav Kook ce soir parce que je trouve important de le citer. Le Rav Kook, c'était un rabbin respecté en tant que Talmud Chacham par tout le monde, à part quelques farfelus paumés. Mais Rav des gens, comprennent, on ne peut pas lui retirer ça, c'était un très grand Talmud Chacham. La raison pour laquelle la majorité des Gdolim était contre lui, c'est par rapport au sionisme seulement, pas sur le reste. C'est par rapport à sa shita sur le sionisme, le Rav des Gdolim était contre lui. Mais ses shitotes en dehors, tout le monde l'adore. Le Rav Kook, c'est quelqu'un de très bien. Il y a quelques-uns qui ne l'aiment pas, laissons-les de côté, ils ont d'autres problèmes. Donc, la raison pour laquelle je m'attarde à mentionner beaucoup ici Rav Kook, c'est parce que malheureusement, souvent, chez tous les juifs, Rav Kook, c'est un grand sadique. Mais chez les juifs sionistes, j'entends par sionistes les misrachistes, chez les juifs sionistes, le Rav Kook est considéré comme le Rav. D'ailleurs, il l'appelle Harav. Le Rav. Le Rav par excellence, c'est lui. Il n'y a pas au-dessus. C'est le top. Et en effet, j'avoue que c'est un très grand Rav. Néanmoins, je tiens à préciser donc la position du Rav Kook sur ce point-là, car malheureusement, souvent, chez les juifs sionistes, il y a un sentiment de racisme. Généralement, c'est envers les Arabes, évidemment, puisque c'est avec les Arabes qu'on a le plus de problèmes. Donc c'est plutôt envers les Arabes qu'envers les Français. Mais comme il y a un problème de racisme, et qu'il faut savoir faire la part des choses, il y a une réalité, il y a des terroristes, ce sont des vilains, il faut les tuer, pas de problème. Mais il y a des gens gentils aussi. Ces gens gentils n'ont pas à pâtir des autres. Le Rav Kook écrit dans un sefer sorti récemment, post-mortem, le Linvuchei Hador. Linvuchei Hador dans Perek Guimet. Ce sefer, je crois que c'est le seul livre de Rav Kook qui est écrit dans un langage plus ou moins compréhensible. Le reste, c'est toujours, on dirait, des quatrains de Nostradamus ou je sais pas quoi. C'est un langage semi-poétique, philosophico, poético, prophético, je sais pas quoi. C'est toujours des phrases obscures, le Rav Kook. Là, pour le coup, dans Linvuchei Hador, il est d'une clarté. Il dit clairement ce qu'il pense. On ne peut pas se tromper. C'est écrit de manière très simple, très claire. Il écrit dans Linvuchei Hador, Perek Guimet, il dit que Ikara Avoda Bedoreinu, la avoda dans notre génération à nous aujourd'hui. Ikara avoda, c'est quoi? C'est bien clarifier tous les moussagim dans la Torah, toutes les notions dans la Torah qui pourraient paraître contraires à la morale humaine. Moussar ativi. Tout ce qui pourrait paraître contraire à la morale humaine, c'est notre job aujourd'hui de travailler là-dessus, de clarifier ces points, de montrer en quoi ça n'est pas contraire à la morale. Voilà pourquoi il faut dénoncer ces notions qui sont souvent comme ça racontées. Bémet, c'est faux. C'est marqué comme ça. Par exemple, Péré Adam. On dit toujours sur Ishmael, les Péré Adam, c'est marqué dans Bereshit 16, 12, où il y a Péré Adam, etc., etc. Il faut savoir ça, c'est uniquement Ishmael, c'est pas tous les Arabes. Ça n'a jamais été dit sur les descendants de Ishmael qu'ils seront Péré Adam. Dire cela reviendrait à ne pas leur reconnaître la Bechira. C'est limite de la Kfira de penser ça. Ils ont le libre arbitre. Un musulman peut être un musulman tzadique. Un arabe, s'il devient musulman, ou même s'il ne l'est pas, mais s'il respecte les Shiva Mitzvot, il peut être un arabe tzadik. On n'est pas obligé d'être un rachat ou d'être un barbare, un péré Adam, quand on est arabe. Alors, oui, il y a des marmarines qui disent que les arabes, les descendants de Ishmael, ont une netiya, une tendance au vol, comme si les descendants de Esav avaient une tendance au meurtre. C'est marqué dans le Yalkut Shimoni sur Parashat Bracha, Taf Taf Kufnun Aleph. Mais encore une fois, c'est qu'une notion de tendance. Ils peuvent s'en sortir, ils ont le libre-arbitre comme un juif. Le juif, c'est marqué dans la Gemara Betzach, Afé Amoud Bet, qu'ils ont une tendance que le juif, naturellement, est effronté. Il est aspanim. La Gemara, elle dit netes la Torah qui a été donnée au peuple juif, personne ne pourrait leur donner date, ils auraient massacré le monde, les juifs. Voilà une phrase antisémite dans le Talmud. Voilà une phrase raciste. Pourquoi ? Parce que ça n'est qu'une tendance. Oui, les peuples sont différents. Oui, un Chinois est plus zélé et travailleur qu'un Noir est plus sportif et musclé et un je sais pas quoi. Chacun a des tendances, a des aptitudes. Ma'alot et chesronot, il y a du plus et des moins. Les Juifs, ils sont doués dans la médecine, ils sont doués dans les sciences et dans le commerce. Les Noirs dans le sport. Chacun, oui, il y a des tendances, c'est comme ça. Et il y a des points négatifs. Le point négatif, ça, chez le juif, le point négatif, c'est que c'est un effronté, il est orgueilleux et effronté, et il risque de massacrer le monde s'il n'est pas cadré par la Torah. C'est la Gemara qui dit ça, c'est pas moi. On voit des Arabes qui sont soulignés comme étant des tzadikim. Le Rambam souligne, le Rambam parle de quelques Ishmaélim, notamment Averroès, Ibn Rachid, et Averroès, d'après le Rambam, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il y a aussi, le Rambam écrit dans Moré Nevouchim, Moré Nevouchim Chelek Bet Perektet, il écrit à philosophe Anaale Abu Becher Ibn Al-Tsaïg, c'est son nom, il n'est plus rien. Asher Lamadeti Etzel Echad Mitalmida. J'ai étudié chez un de ses élèves, il écrit comme ça avec une haratza, waouh, quel grand philosophe, quel grand chacham, etc., etc. Donc, où est le Péré Adam? Eh non, il n'est pas Péré Adam, c'est que Ishmael, le yotermisé. Après, il peut y avoir des descendants Péré Adam, il peut avoir une tendance à, mais ils peuvent s'en sortir s'ils le souhaitent aussi.
Toi, Péré Adam, toi, Péré Adam.
Barba. Il y a marqué aussi dans le Sifri, vers le Techa, puisqu'à Yudalef, il y a marqué Alachab, Yadoua, chez Esav, Soneli Yaakov. Esav, Soneli Yaakov, c'est la même arnaque, la même chose. Là-bas, ça n'a été dit, regardez de quoi on parle là-bas, sur le Pachouk, Vaishakéou, à cause des points, etc. Regardez là-bas dans le texte, vous verrez clairement, on ne parle que de monsieur Esav, pas des descendants de Esav. Si telle était l'intention, on aurait plutôt dû dire que Alacha est d'homme, Soneli Israël, et pas Esav, les Yaakov. Et si jamais vous me dites, non, mais ma, c'est à votre Siman Labanim, et avant c'était comme ça, c'est que maintenant tous les descendants sera pareil. D'abord, je vous dirais que tous les goyim ne sont pas descendants de Esav. Sans quoi, où sont tous les descendants des goyim de l'époque de Esav? Il n'y a qu'une minorité qui est descendante de Esav, premièrement. Et deuxièmement, même si on dit non, Siman Labanim, etc., etc., Siman Labanim, ça ne veut pas dire qu'ils vont être exactement comme lui. Quoi, ils ne peuvent pas changer? Bien sûr qu'ils peuvent. Véhi, je vous demande, tous les descendants de Yaakov sont tous des tzadikim? Il n'y a pas un juif rachat sur terre? Betarchech, Azma. Ça veut dire que Siman Labanim, c'est un plus, ça aide, mais on n'est pas coincé. On peut après choisir sa voie. Une autre idée encore qu'il faut dénoncer, du moins à mon sens, et là c'est déjà plus subtil, il y a une idée qui se trimballe que les goïms auraient été créés pour être les esclaves des juifs. Et après on s'étonne des protocoles des âges de Sion. Non mais franchement, c'est quoi ces idées-là? Que les goïms auraient... Leur but c'est que ça, t'es là pour servir le juif, tu es l'esclave, viens me cirer les chaussures. Chas v'shalom, une telle chose. Si c'était comme ça, pourquoi les goïms ont été créés avec la koach habechira, le libre arbitre? Arrête, les animaux sont là vraiment pour servir les hommes. Oui, eux, ils n'ont pas de libre-arbitre. Pourquoi les goyim ont un libre-arbitre? C'est qu'apparemment, ils ont un compte à part, ils ont quelque chose à faire eux aussi, ils ont un job, ils ont un sens, leur vie a un sens. Faut pas dire ils sont là que pour servir en tant qu'esclaves. Les gens qui disent ça se basent souvent sur une mauvaise compréhension d'un Rashi. Le premier Rashi dans la Torah, au début, Bereshit. Rashi écrit, c'est quoi Bereshit? Bishvil Israël, Shenikreou Reshit. Le monde a été créé. Bishvil Israël, pour Israël, Shenikreou Reshit. La Kavana, ça ne veut pas dire Bishvil Israël, les Ma'an Israël. Ici, Bishvil Israël, dans cette phrase, ça veut dire Bishvil, ça veut dire Bezrout Israël. Par le mérite d'Israël. Pas pour Israël, pas pour servir Israël. La preuve, c'est que Aré Rashi n'invente rien. Ce qu'il ramène, c'est un chazal. Et ce chazal, il se trouve dans le Midrash. Veikra Rabba Parasha Lamedvav Siman Dalet. Et ça se trouve aussi dans le Midrash Tanchuma Buber dans Bereshit Siman Yud. Il y a marqué là-bas ce que dit Rashi avec une autre phrase. Et on voit bien que le mot que Rashi a utilisé ici, Bishvil, c'était dans l'entendement de Bezrout et pas les Ma'an. Pourquoi? La phrase dans le Midrash, c'est Shamaï Vares le Nivreou et là Bezrout Israël. Il n'est pas marqué Bishvil, il est marqué Bezrout. C'est Rashi qui a changé. Mais la Kavana, c'est Bezrout, encore une fois. Pourquoi? Parce que par le Srout, que les Juifs vont accepter la Torah. Et Dieu a dit, moi je crée le monde uniquement s'il y a un peuple qui prend la Torah. Donc grâce au fait que les Juifs ont pris la Torah, c'est pour ça qu'il y a le monde. Et quand c'est marqué, le Pasuk dans Zechariah 8, 23, c'est marqué, chez Yarziku, Asara, Nashimikol, Eshonot, Agoïm, Virziku, Bekanaf, Ishioudi, les morts, Nelchai, Machem, que les Goïm vont s'accrocher au coin, au pan de l'habit du Juif pour dire, on veut aller avec vous, etc. Et la Gemara Shabbat, la Medbet, Amudbet, elle écrit que chaque Juif aura 2800 avadim. Alors voilà, les esclaves. Et ouais, allez, à mes pieds, viens ici. Pourquoi 2800, c'est Asara, Anashim, 10 Anashim, fois 70 Eshonot, fois 4 Kanfot. Là-bas aussi, la Kavana, c'est pas des esclaves. La Kavana, c'est des Meshamshim. des gens qui vont les aider, comme un shamash. Pas un esclave. Pas un esclave. La différence entre le shamash et l'esclave, c'est ce qu'il est volontaire. Le shamash, il veut aider. C'est quelqu'un qui veut aider. La prophétie ne fait que dire que, après la venue du Messie, les non-juifs seront tellement convaincus de l'importance de la Torah et du judaïsme qu'ils voudront participer, même si ce n'est pas en se convertissant, mais ils voudront participer, ils voudront aider la Torah. Comment aider la Torah? Je veux faire quelque chose, je veux participer, mais pas être l'esclave d'un juif pour le servir. Daï Shelo, preuve en est le pasouk qui dit Nel Chai Machem. C'est de leur volonté, on ne va pas leur imposer quoi que ce soit, ils ne vont pas être esclaves. Néanmoins, il faut savoir qu'en lisant des livres, des fois, c'est ce qu'il apparaît. Dans le Maharal, dans Derech HaChaim, dans l'Akdama à page Yudbet, il écrit que les goïms ont été créés que des Shamesh et Bnei Israël. La lecture simple indique apparemment qu'ils sont là pour être les esclaves des juifs. Pareil, le Rav Eliyahu Cohen, dans son Midrash Talpiot Daf Resh Nun He Amud Dalet, il écrit aussi que le goï est là pour servir le juif. C'est son but. Je ne sais pas comment il faut les comprendre. Si il faut le comprendre texto, c'est scandaleux et je ne suis pas d'accord. C'est scandaleux, je vais vous dire qui je suis pour être pas d'accord. Ok, je ne suis pas grand-chose, mais je m'appuie sur tous les autres rishonim et surtout sur ceux qui ont indiqué qu'il faut toujours être fidèle au bon sens humain. Le fait est qu'on ne trouve rien de tel dans les chazal, rien qui puisse indiquer que ce soit vraiment de la avdout mamash. C'est uniquement dans les acharonim qu'on voit cette idée-là. D'après moi, c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la manière dont on expliquera ces textes-là, en aucun cas, comme on dit tous les rishonim au début du shiur, vous rappelez, en aucun cas, ça ne doit pas aller à l'encontre du bon sens et de la morale. Il y a encore une autre source qui va un peu dans ce sens-là que certains ramènent. Le pasouk Yavducha Amim, etc. Yavducha Amim, Ishtachavu Lecha. Le pasouk dit Yavducha Amim, la Mashmo, dit marqué Ishtachavu Lecha, Bnei Imecha. C'est qui Bnei Imecha? C'est Yitzhak qui parle à Yaakov. C'est qui Bnei Imecha? C'est Esav. Donc on est en train de dire que Esav, Ishtachavu Lecha. C'est ça qu'on est en train de dire dans le pasouk, dans Bereshit 27-29. Là-bas aussi, la Kavana, c'est pas être son esclave, c'est un shérout, un service, c'est aider. Et la Ishtachavaya dont on parle, se prosterner, ça veut pas dire se prosterner physiquement. Ça veut dire reconnaître l'importance de ta mission. Que Esav va reconnaître l'importance de la mission de Yaakov. Preuve, c'est que Yaakov lui-même, après, lorsqu'il bénit ses enfants, un peu plus loin, dans Bereshit, même tête, pas soukrète, il bénit Yehuda et il lui dit la même chose. Ishtachavu lecha bene avicha. Là-bas, on souligne, il a dit bene avicha parce qu'il y avait plusieurs femmes, à la différence de son père. Donc il dit bene avicha pour dire tous les frères. Ishtachavu lecha bene avicha. Et c'est encore une fois marqué Ishtachavu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les juifs sont les esclaves de Yehuda? Vadaï que non. Seulement quoi? Tous les juifs reconnaissent le rôle important de Yehuda, la malchoute, le fait d'être Meler, ils le reconnaissent et ils le laissent à Yehuda. Ils respectent Yehuda pour cela. C'est ça l'idée de Ishtachavaa. Le Hehemek Davar, le Netziv, écrit, et c'est pour ça que c'est écrit dans le pasuk Vishtachavu, c'est écrit Chaser. Pourquoi? Sans le Vav. Pourquoi? Chez Enapirouch, il écrit, chez Enapirouch, Ishtachavaa Mamash. Ça veut pas dire qu'ils vont se prosterner. Vadaï que non. Et là, que Eindirti Vihabducha. C'est comme c'est écrit, ils vont t'honorer. C'est une idée de Kavod, c'est tout. Il ne faut pas perdre de vue qu'il est marqué dans Tanat Be'eliyahu Rabba, c'est un midrash. Tanat Be'eliyahu Rabba dans Perek Tet, il y a marqué que ce soit un juif, que ce soit un goy, ben Israël, ben goy, ish, isha, evel, shifra, un homme, une femme, un juif, un goy, peu importe, hakol, lefia, maase, jehuose, kach, roi, hakodesh, shora, alav. En fonction des actions, de ses actions, le roi, hakodesh, réside sur lui. Ça veut dire qu'un goy peut avoir roi, hakodesh, s'il se comporte bien. Sans passer par une Kabbalah au Beddin, sans passer par une conversion, sans passer par un guerre, rien du tout. Il se comporte bien, c'est un homme intègre, il peut arriver jusqu'à Ruach HaKodesh, même s'il est goy. Pas de différence, homme, femme, goy, juif, ça ne change rien. Tout le monde peut y arriver, c'est les filles à Maasim, en fonction de ses bonnes actions. On sait aussi que les goyim Meshlehem, Chelek, Leolam Haba, comme c'est marqué dans le Rambam, c'est déjà Mashma comme ça au début de Perek Chelek dans Sanhedrin, dans la Mishnah, Daf Tzadik déjà, et aussi la Tosefta de Masechet Sanhedrin, Perek Yud Gimel Alakha Aleph, le Rambam écrit dans le Chot Shuvah, Perek Gimel Alakha Hei, que les goyim qui se comportent bien ont part au monde futur. Ils ont Chelek, Leolam Haba. Donc c'est pas en vain ça. Le Rambam écrit aussi dans une réponse qu'il a adressée à Rav Chesdaï Alevi, dans les réponses, dans les grottes à Rambam, c'est Daf Ravdalet Amud Aleph, dans l'édition de Leipzig. Il écrit « Mashé Shalta, la Oumot, que tu m'as posé comme question concernant les autres peuples, les non-juifs. Eveyodéa de Rahman Ali Babaé, il faut que tu comprennes quelque chose. Le bon Dieu attend de l'homme le cœur. Il faut que tu sois sincère avec Dieu. Veïn Bedavar Safek, il n'y a aucun doute. Chez Kol Mishit, Kin Nafsho, Bekashrut, Amidot, Bekashrut, Achorma, Bemunat, Aboré, Barach, il est évident que quelqu'un qui sait travailler pour devenir quelqu'un de bien, Bevadai, Houm Ibne Olam Abba. Aucun doute. Aucun doute, Houm Ibne Olam Abba. Alors il rentre ici l'idée de Dieu pour éviter la Vodazara, mais c'est plus long, on pourrait en parler, mais on n'a pas le temps. Encore un autre point, il est marqué dans Gittin Dar Samech Aleph Amud Aleph, qu'on a pour devoir de, vis-à-vis des goïms, les vaquer cholehem, de visiter leurs malades, d'enterrer leurs morts, de les consoler, de leur de présenter les condoléances lorsqu'ils ont un deuil, de leur faire de la tzedaka, bref, toutes sortes de chesed avec le goy. On doit être gentil et charitable avec le goy, c'est marqué dans la Gemara Gittin Samech Aleph, mais, il y a un mais, pourquoi il faut être gentil avec lui, faire du chesed? Mipnei darkei shalom. Pour les darkei shalom, pour rester en bon terme, tout le monde comprend cette Gemara comme ça. Ça veut dire pour rester réglo avec lui, parce que ça craint, pour éviter d'avoir après une bataille, pour éviter qu'il nous attaque, etc. Maï mashma. Mashma que le goy, on l'aime pas. Si on pouvait être vache avec lui, on le serait. Le problème, c'est que c'est un petit peu dangereux par moment, comme ils sont plus nombreux, alors on va leur faire du chesed, on va leur faire des chassadim, on va enterrer leur mort, on va donner tzedaka à leurs pauvres, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'on les aime, non, c'est parce qu'on a peur. Ça, mipnei darkei shalom, on le fait. C'est faux. L'osea kavana, c'est faux. En tout cas, moi, je comprends la Gemara autrement. Je propose une autre lecture de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire mipnei darkei shalom? Ça veut dire mipnei ahavat ashalom. Parce qu'on veut, parce qu'on aime la paix. Pas parce qu'on a peur d'avoir des problèmes avec eux. Pas mipnei tsorer ashalom. Mipnei darkei shalom, ça veut dire mipnei ahavat ashalom. Sans quoi, on aurait peut-être dû dire. Pas mipnei darkei shalom, mais mahmat darkei shalom, parce qu'on a peur des soucis qui pourraient en découler. Et ça, c'est déjà écrit dans beaucoup de sfarim. Il y a le Rav Eliyahu ben Amozeg, il écrit ça dans son livre Israël Ve'enoshut, Israël et l'humanité, page 294. Il écrit que quand on dit mipnei darkei shalom, ça veut dire parce qu'on aime le shalom. C'est pas parce qu'on a peur des réactions d'égoïsme, etc. C'est parce qu'on aime le shalom. Preuve en est, il dit, cette règle s'applique même lorsque les juifs sont molchim be'artzam. On est en Israël avec un roi et une armée, on a peur de rien, il n'y a aucun souci, il y a un petit goy. Il faut quand même être gentil avec lui, même s'il est minoritaire et on risque rien. Malgré tout, la halakha s'applique, qu'il faut le respecter. Il ramène que dans Yechezkel 39.11, c'est marqué qu'il faudra, après, il faudra enterrer les morts de Gog, dans la guerre de Gog ou Magog, alors qu'on ne leur doit plus rien, on n'a plus peur du tout et tout va bien. Dans Shmuel Bet Perekyut, c'est marqué lorsque le Melech, le roi de Ammon, est mort, David Amelech a envoyé à son fils, Hanoun ben Nahash, il lui a envoyé des envoyés pour présenter ses condoléances. Il lui a envoyé des cadeaux, des personnes qui sont venues dire aïe aïe, condoléances quand ton père est mort, etc. etc. À Falpi, qu'il n'avait pas du tout peur de lui et aucune raison d'avoir peur de lui, comme le verset l'indique, parce qu'après il y a eu réellement une guerre et il l'a ratatiné, il n'avait pas peur du tout de lui. Dans Ruth Rabba, il ramène toujours le Rav ben Amozek, dans Ruth Rabba, dans le Midrash, par Shabbat Siman Yud Gimel, c'est marqué que Rabbi Meir est allé consoler Avnimus Agardi, c'était un goy, lorsqu'il était endeuillé. Il est allé le consoler. Pourquoi? Pourquoi? Qu'il n'y avait aucun danger, aucune raison. Pourquoi tu es Elama? Parce que non, c'est mon ami, j'y vais, pas de souci. Pareil, écrit le Rav Isser Yehuda Unterman, ancien grand rabbin d'Israël, Kobetz Morasha Alef. Pareil, le Rabbeinu Menaché Ben Israël. Il écrit dans Justice pour les Juifs, page 64, il appelle ça par esprit de conciliation. C'est ça, Darkei Shalom. C'est pas parce qu'on a peur, c'est parce qu'on veut être ami avec eux, c'est parce qu'on veut être gentil et bien se comporter. Je pense que Rav Yosef Messas pensait pareil. Je pense que Rav Yosef Messas a compris la Gemara de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans Otsar Amirtavim, Chelek Alef Siman Rechmem, dans Otsar Amirtavim, le Rav Yosef Messas écrit, c'est Otsbet du Siman Rechmem. Il écrit, quelqu'un lui a demandé là-bas, est-ce que je dois aller à l'enterrement? Il y a un goy qui est mort, est-ce que je dois aller à son enterrement? Je le connais, est-ce que je dois y aller? Il lui a répondu, Davarze Chiyuva Hu Mishum Darkei Shalom. Ça, c'est un chiyuv. T'es obligé halakhiquement d'y aller à cause de Darkei Shalom, comme on l'a écrit, sans interpréter ce que veut dire Darkei Shalom. Et il dit, Afilu Leaprutim Shebaem. Même pour les basses personnes, le bas personnage, un vil, goy, il faut aussi y aller. Vekol Sheken Imu Mechasideem, et à plus forte raison, si c'était quelqu'un, Mechasideu Motaolam, un gentil goy, Sheeshlem, Chelek, Lolamaba, à plus forte raison, tu dois l'honorer et tu dois y aller. Déjà, du Lachon chiyuv qu'il utilise. Il n'a pas dit, Tzorer, Mipnei Asakana, Chiyuv d'y aller, déjà c'est Mashma qui l'a compris comme ça, et aussi le fait qu'il fasse un Kol Sheken et Chassidéem. Quel rapport avec Kol Sheken? Si on y va uniquement pour éviter les soucis, il n'y a pas de Kol Sheken qui s'impose ici. Je pense aussi que c'est ce que pensait le Rabbi Elazar Fleckers. Rabbi Elazar Fleckers, Talmid du Khatam Sofer, Nadab Yehuda, Talmid du Nadab Yehuda plus, on va dire, il écrit dans Kesut et Naïm, imprimé au début de son shoot Tshuva Me'ava, dans Hot Zain, il écrit. Il prouve là-bas, à partir de la Mechilta et d'une Gemara, il prouve qu'on est tenu halakhiquement de prêter de l'argent à un goy dans le besoin. Je connais un goy qui a besoin d'argent, j'ai une mitzvah, minatora, selon lui, de lui prêter de l'argent. Et il écrit, Kol Sheken, la plus forte raison, qu'on est tenu de lui donner de la tzedaka si c'est un pauvre. Un goy pauvre, qu'on est tenu de la tzedaka. Donc on voit clairement, il n'a pas pu comprendre que Darkei Shalom, ça veut dire à cause de la peur, à cause du pachad. Non, il y a une mitzvah, minatora. Comment c'est pas? C'est pas parce qu'on a peur. C'est ce qui ressort aussi, je pense, du Rambam. Le Rambam écrit, Dans les crocs, mais la prime à la fin de Perekiud, mais Farnesim, etc., il ramène la Gemara de Gitin Samechalef, qu'on a donné la Tzedaka au Goyim, etc., Mipnei Darke Shalom, mais il continue. Et dans la suite, ça va nous expliquer c'est quoi son Darke Shalom. Il dit il faut donner le Tzedaka et aider le Goyim, Mipnei Darke Shalom, pourquoi ? Oui, bien sûr, car le Pasuk dit que Dieu est bon envers toutes ses créatures et il aime tout le monde. Que les chemins de la Torah sont agréables, on est gentil avec tout le monde. Voilà pourquoi, voilà l'interprétation selon le Rambam de Mipnei Darke Shalom. Donc c'est pas par peur de représailles, mais c'est par amour du Shalom. Mipnei Ahavat Shalom. J'ai vu que dans cette déduction, dans les mots du Rambam, j'ai été devancé par le Rav Klatskin dans le Shu'ut Imre Shefer, Siman Tzadik Bet Dachain Tet Amud Alef. Il écrit déjà ce diouk dans le Lachon du Rambam. Et il ramène qu'on trouve dans l'Yerushalmi de Yeruvin, Perek Zayin Al Hatet, le Lachon Darke Shalom qui n'a rien à voir avec une peur de représailles. Là-bas il y a marqué Mipnei Ma Me'arvin Bechatzerot, Mipnei Darke Shalom. Quel rapport avec les représailles, quel rapport avec les goyim. Et là, on voit que Mipnei Darke Shalom, ça veut dire pour installer une bonne entente, par esprit de conciliation. Le Rav Yitzhak Ber Levinzon, puisqu'on l'a cité tout à l'heure aussi, écrit dans Zerubbabel, dans Chelek Bet, page 91 et 92, la même idée. C'est déjà machma comme ça dans la Gemara, Libadémé. Parce que la Gemara dans Gittin Dafnutet Amudbet écrit sur ce Darke Shalom en question que ça correspond à ce qui a été écrit d'Erachéa. Darke Noam Vechol Netivotea Shalom. Donc c'est un peu comme dans le Rambam, où on voit que l'idée du Darke Shalom, c'est être gentil et agréable, c'est tout. Je pense même pouvoir amener une preuve de ça à partir de la Gemara. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, Yudzayin Amud Aleph. La Gemara dit comme ça, Leolam Yeh Adam, etc., etc. Marbe Shalom Imecha Vim Krova Vim Kol Adam Afilu Akum Beshuk. Un homme doit toujours être gentil et sympathique, être Marbe Shalom avec ses amis, avec ses proches, avec ses frères, avec sa famille, même avec un goy dans la rue. Un homme doit être gentil et sympathique, même avec un goy dans la rue. L'idée de dans la rue, c'est que je ne le connais pas spécialement. Il faut quand même être gentil avec lui. Pourquoi ? Pourquoi c'est marqué dans la Gemara que déchayé ahouv les malav nechmad les mata? Pourquoi il faut être gentil avec le goy dans la rue? Que déchayé ahouv les malav, pour que le bon Dieu t'aime. Veillez nechmad les mata, et pour que tu sois un chic type en bas sur terre. Que les gens disent ça, c'est quelqu'un de bien. Voilà la raison pourquoi il faut être gentil avec le goy. On n'a pas dit là-bas pourquoi il faut être gentil, mishum eiva, mipne asakana, mipne darke shalom. Non! Parce qu'il faut être quelqu'un de bien, c'est tout. C'est pour être nechmad. C'est ça le pirouche, mipnei darke shalom. On voit bien que ça veut dire pour être nechmad, pour être sympathique. Encore un autre dossier. Lotechonem, yengmara. On a dans Masechet Avodah Zara, Chaf Amud Aleph, sur le pasouk Lotechonem dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Lotechonem? Il y a trois interprétations là-bas. Lotechonem, la Gemara fait une dracha là-dessus. Lotiten lem matnatrinam. Interdit de faire un cadeau à un goy. Pas de cadeau. Goy, pas de cadeau. Tu veux, tu payes. Je ne veux pas être sympa. Comment c'est possible un truc pareil? Et pareil aussi, sur la tête, la haine, interdit de dire sur un goy, oh qu'il est beau, dire du bien, ah il est bien. Non, 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 Burk, c'est un vilain, c'est un goy. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tant de sévérité? Pourquoi tant de haine? Le Meiri écrit, dans Avodah Zara, d'Afraf Amud Aleph là-bas, bien entendu, encore une fois, ça ne concerne que le Oved, Avodah Zara, le barbare. C'est sur le terroriste qu'il est interdit. Interdit de donner un cadeau à qui? Au terroriste. Non, un gentil goy, bien sûr, aucun souci. Le Torah Tmima écrit aussi dans Dvarim Zayin, Hot Aleph Bet et Gimel, ça se rapporte que au Shiva ou Mot. Ça ne se rapporte pas à tous les goyim. Il y a des goyim très gentils, ça ne les concerne pas. Il ramène aussi un Tosfot comme ça. Le Chinuch aussi dit ça, dans Mitzvah Taf Chaf Vav. Le Pachad Yitzhak, l'apprenti aussi, dit la même chose, que c'est uniquement les goyim qui étaient suspectés de zoophilie, de crimes, meurtres, etc., etc. Uniquement ceux-là étaient Raïm Be'ene Hachem. C'est pour ça, après parce que là il est tard, désolé, après je réponds à vos questions, c'est pour ça qu'eux, il ne faut pas être gentil avec eux, il ne faut pas les aimer et pas dire du bien d'eux. Je pense pouvoir le prouver aussi d'une Gemara dans Psachim. Psachim Chavbet Amud Aleph, on nous cite une Mishnah, il y a marqué Sholeach Adam Yerech Anochi là-bas, on dit qu'on a le droit d'envoyer un cadeau à un goy. Comment c'est possible? Arre Lotiten Lemchaim, Velotel Matnatrinam, pas de cadeau. Pourquoi tu lui envoies un cadeau? Et Lama, c'est qu'apparemment là-bas on parle d'un goy. Il y a marqué Nochri, un gentil goy. Ahmed, c'est que cette Mishnah trouve sa source dans Chulin Tzadigimel Amud Bet, en bas, et là-bas c'est marqué Akum. Oved Avodah Zara. Alors comment on va s'arranger? Il faut dire là-bas, Bemet, que la vraie version c'est Nochri à l'origine. Comme c'est ramené dans Psachim, mais c'est comme ça dans le Sefer du Mishnayot. Seulement souvent dans le chasse, les mots Nochri, Akum, Kuti, Goy, tous ces mots-là ont été intervertis à cause des problèmes de censure. Le Rashba écrit aussi, toujours sur le même sujet, Chelek Alef de Shuta Rashba Simanchet, il ramène une preuve de la Gemara Avodah Zara Samer Hei Amud Aleph, où il est marqué explicitement que Rav Yehuda a envoyé un cadeau à un Goy. On lui a dit, ah mais pourtant c'est interdit. Il a répondu, non, je sais que lui il ne fait pas Avodah Zara. Alors quoi? Et là, on voit que le problème, c'est qu'un goy oved avodazara. Pareil, c'est écrit dans Torah Tumat, Varim Zayin Ot Gimel. Il ramène plusieurs gmarot là-bas, dans lesquels on voit qu'on donne des cadeaux à des goyim qui ne font pas avodazara. Le tour écrit la même chose aussi. Choshen Mishpat Siman Resh même tête. Qu'un goy qui ne fait pas avodazara, on peut lui faire des cadeaux, il n'y a aucun souci. L'interdit, c'est uniquement le goy akum. Dit le tour, on ne fait pas de cadeaux, hein, akum, hein, oved avodazara. C'est pelé parce que le Bet Yosef là-bas écrit que ce qu'écrit le tour, que ça concerne le Hakoub, le Oved Avodazara, c'est l'Avdavka. Et en fait, c'est interdit de faire un cadeau même à un musulman. C'est ce qu'écrit le Bet Yosef là-bas. Mais le Bar n'est pas d'accord, et il lui dit, c'est pas vrai, s'il ne fait pas Avodazara, c'est moutard. Alors le Char, Davka le Char, dans Yerdea Siman Kufnun Alef, Siv Katan Yutret, il ramène uniquement le Bet Yosef et pas le Bar. Mais dans le Rambam, on voit, Ichot Avodazara peut écrire à la Khadalet, que c'est moutard de donner un cadeau à un goy. D'ailleurs, c'est un pasouk, hein, un pasouk explicite qui dit, le Torklou Kol Nebela, qu'il faut le donner au Ger Asher Bish Arecha. Un point encore important, et avec ça on termine. Ve'aftal ereacha kamocha. Ve'aftal ereacha kamocha. Est-ce que la mitzvah d'aimer son prochain concerne le goy aussi? Est-ce qu'il faut dire je l'aime bien, ce type il est sympa, ou bien non, beurk, c'est un vilain. Dans le Yadrama, Sanhedrin Nunbet Amudbet, il écrit que ereacha, la mashmaout du mot ereacha, c'est mashma Israël seulement. Ereacha, Israël. Dans le Rambam aussi, le Chod Deot Perikvav al-Chagimel, mitzvah le'ehov et kol echad ve'echad, mais Israël, kegoufo. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain juif, kegoufo, comme soi-même, comme il est dit, ve'afta le'echa kamocha. Alors il est possible de dire, certes, le Rambam écrit ça, le Rambam lui a drama, mais leur intention est de dire que par rapport au din de kamocha, c'est ce que dit le Rambam, de l'aimer comme soi-même. Ça serait que le juif, ça serait que pour la grande famille. Tous les juifs, on est quand même plus en famille qu'avec les non-juifs. Donc on se sent plus proche avec les juifs. Donc il y a une mitzvah de l'aimer comme soi-même. Mais un non-juif, il y aurait une mitzvah de l'aimer. Certes, pas autant que moi-même, mais un petit peu moins, mais je l'aime aussi. C'est pas encore contredit, on peut dire ça. Néanmoins, il y a encore plus que ça. Dans le Sefer Haïkarim du Rav Albo, Mamar Gimel Berek Rafé, il écrit... C'est machma là-bas que Ve'aftal et Re'acha Kamocha, ça inclut aussi le goy. La mitzvah de Ve'aftal et Re'acha Kamocha, ça inclut le goy aussi. C'est ce qui ressort aussi du Rabbeinu Bechaye Lehoa. Rabbeinu Bechaye écrit dans Shemot 20-13, quand il y a marqué le Tarné Brecha et Chaker, l'interdit de faire un faux témoignage sur Re'acha. C'est qui Re'acha, ton prochain? C'est qui? Dit Rabbeinu Bechaye, ça inclut aussi le goy et le mot Re'acha. Sans quoi on aurait dû dire Achicha, pas Re'acha. Ça, c'est la position de Rabbeinu Bechaye. Que Re'acha, ça inclut le goy. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a compris dans Ve'aftal et Re'acha Kamocha? Ben, Re'acha, t'as dit que ça inclut aussi le goy. Et en fait, on a déjà dans le Midrash. Talad Beléo Rabba, Perek Tedvav, Dafnun Alef Amud Alef, il y a marqué sur le Pasuk, Lota Ashok Ad Re'acha, que ça inclut le goy. Donc, cette idée de Rabbeinu Bechaye, que Re'acha égale goy, ça inclut le goy, ça se trouve aussi dans le Midrash déjà. Les rois, d'après ça, on peut facilement inclure le goy. Et c'est ce qu'ont écrit aussi beaucoup de acharonim. Ça, c'était chez les Rishonim. Beaucoup de acharonim disent pareil. Le Rav, Bloch, Prime Bloch, dans Damash et Tachif, Perek Gimel, il ramène une preuve du Pasuk dans Echa, et encore d'autres preuves. Au début de Echa, Perek Alef, Pasuk Bet, Kol Re'ea, Bagduba. On voit bien que les autres peuples sont appelés Re'ea de Jérusalem. L'Ikuté An Shechem sur la Torah, Echa 19-18, pareil. Le Rav Israël de Sarcelle. Rav Israël de Sarcelle, il a écrit plusieurs Sfarim, Menuchat Aaron, sur Psachim, page 323, sur la note 41 bis, il écrit aussi la même chose. Que Ve'aftal et Re'acha Kamocha, ça inclut le goy. Lui aussi, il faut l'aimer comme soi. C'est machement aussi comme ça dans le Shoutim Rechefer du Rav Klatskin, Siman Tzadik Bet, le Rav Eliaou Ben Amozeg, dans son commentaire sur la Torah, Em la Mikra, Ve'ikra Daf Memvav, Amud Alef et Amud Bet, il écrit aussi que, puisqu'il est marqué dans le Pasouk, le début du Pasouk, c'est Lotikom Velotitor et Bnei Amecha, Ve'aftal et Re'acha Kamocha. Ne te venge pas des enfants de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi on a dit Bnei Amecha, et là on a dit Re'acha? Apparemment, c'est que Re'acha, ça inclut le goy aussi, c'est pas que Bnei Amecha, sinon on n'aurait pas fait la distinction. Et aussi, un peu plus loin dans le Pasouk, dans Vaikra 19-34, c'est marqué Vechi Aguritra, guerre, etc., Ve'aftalo Kamocha. On dit clairement sur un goy, lorsqu'un non-juif viendra habiter parmi nous, Ve'aftalo Kamocha. Alors on parle d'un goy bien toshav, qui respecte les mitzvot. Ve'aftalo Kamocha, c'est marqué. Et avant eux déjà, ça a été écrit par le Rav Pinchas Eliaou de Vilna, celui qui a écrit le Sefer Abrit, dans Chelek Bet Ma'amar Yud Gimel Perek He. Il ramène la même preuve aussi, et il dit encore, la même preuve que du Pasouk qui commence avec Bnei Amecha, comme a dit le Rav Ben Amozeg, et il ramène aussi le fait que, si c'était pas comme ça, si ça n'incluait pas le Goy, on aurait dû dire Ve'aftal et Achicha Kamocha, un peu comme la Svara du Rabbeinu Bechaye. Donc on voit cette idée déjà aussi chez les Aharonim qu'il y aurait mamash une mitzvah de verte. Quand on dit ton prochain, c'est tout le monde. C'est pas ton prochain, non, mon copain, celui que j'aime, c'est tout le monde. Ah, pas l'Avdavka. Et Ahmed Sigmani, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alexandre Veil, Pashtut, c'est un apikoros, ce bonhomme. C'est un juif, mais il a plein d'idées farfelues. Après, il a changé d'avis, il est revenu sur ce qu'il a écrit 20 fois, donc c'est difficile de savoir où est-ce qu'il s'est arrêté, mais la Pashtut, c'est un coffert. Il écrit dans un de ses très très nombreux livres. Il y a un livre qui s'appelle « La France catholique et athée », page 47. C'est un livre qu'il a écrit en réponse à « La France juive » de Drummond. Il écrit dans ce livre-là, il dit, quand il y a marqué, lui il n'aimait pas les rabbins, etc., hein, il va toujours à l'encontre. Et pourtant, il écrit, quand il y a marqué « Ve'avta le'reacha kamocha » dans la Torah, « Kamocha » c'est ton prochain, c'est pas ton ami, comme les chrétiens traduisent, que non, que ceux de mon groupe. Non, c'est pas vrai, c'est tout le monde. Donc il dit, c'est une idée chrétienne de vouloir dire « c'est que mon groupe ». Il y a encore un autre livre, Kinat Haemet, du Rav Mises. Lui aussi, c'est un Rav un petit peu borderline. Je ne sais pas si c'est un Rav ou pas un Rav. En tout cas, voilà, il est mort jeune, il avait des chitotes un petit peu farfelues, mais en tout cas, il ramène des preuves. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas sa position à lui, mais les preuves qu'il ramène. Page 90 du Kinat Haemet et Ara Aleph, il ramène plusieurs preuves. Dans le Baruch Sheamar du Rav Epstein, l'auteur du Torah Tmima, sur Avot Perek Gimel, Mishnah Yud Dalet, aussi pareil. Shadal, Shmuel David Lutzato, lui aussi, c'est un rabbin un peu controversé. Dans Yesodé à Torah, Siman Lametet écrit la même chose. Le Torah Shlema, lui, il n'est pas controversé, tout le monde l'adore. Torah Shlema du Rav Chik, pas du Rav Kacher. Torah Shlema du Rav Chik, dans Shemot, Daf Lametbet, Amud Alef, écrit pareil. Ahemet, c'est que le Torah Shlema du Rav Kacher aussi écrit la même chose. Dans les Milouim de Shemot, Perek Rav, page 261, lui aussi, il écrit Ve'afta l'Ereacha Kamocha, ça inclut le Goy. Et il ramène une preuve de Shemot 11, 2, Vaishalou Ishmet Re'eou. C'est marqué, les Juifs ont demandé aux Égyptiens, Vaishalou Ishmet Re'eou. C'est qui Re'eou? C'est un Goy, nous. Alors quoi, pourquoi on l'appelle Re'eou? Ce qu'on voit bien que le terme Re'acha inclut le Goy. On peut repousser et dire c'est avant Matan Torah. Quand on dit Re'acha, ça n'inclut pas le Goy, c'est parce qu'on est après Matan Torah. Il y a une différence, mais avant Matan Torah, il n'y a pas trop de différence. Donc on peut repousser cette preuve. Il ramène une autre aussi, de Hushai Ha'arki, Re'e David, dans Shmuel Bet. 16, c'est marqué que David avait un ami qui s'appelle le Re'a David, le copain de David, et c'était un goy, il s'appelait Hushai, il était goy. Et pourtant il s'appelle Re'a. Il ramène encore, le Rav Kacher ramène aussi du Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital, le Maharou, dans Sharek du Shark, le Kalef Shar, il écrit Veyeha vet kol abriot, afilu goyim. Il faut aimer tout le monde, même les goyim. Il n'y a pas de j'aime que les juifs et j'aime pas les goyim et c'est mon club, etc. Alors bon, on peut quand même dire, bon ok, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aimer tout le monde, mais l'abdafka kamocha, tu peux faire une distinction, le juif c'est ma famille, je l'aime plus, et le goy je l'aime beaucoup aussi, mais pas autant que les juifs, c'est pas kamocha, on peut dire ça. Et Emet, c'est que beaucoup de acharonim considèrent les choses de cette manière. Qu'il y a une mitzvah d'aimer le goy, même si on dit que ve'afta l'erecha kamocha n'inclurait pas le goy, il y a malgré tout, il faut quand même aimer le goy, pas kamocha, c'est pas la mitzvah de kamocha, mais quand même. Le Yahabet dans Migdal Oz, Aliyat Ahava Perek Yudbet, il écrit pas Kamocha, mais il faut quand même l'aimer. Rabbi Tzrak Ber Levinson, puisqu'on l'a cité plusieurs fois dans Zerubbabel Chalek Bet, page 104, écrit que le Passouk parle que de Israël, Ve'avta Kamocha, mais que les Chachamim l'ont élargi même au Goïm. Midrabanan, comme ça. Rabshim Shin Raphaël Hirsch aussi dans son commentaire, Vaikra 19-18, écrit pareil. Le Rav Kook, puisqu'on a dit qu'il fallait le citer ce soir, dans Midod Re'aya, Ahava Siv Katan He, et aussi dans Shmoné Kvatsim, Chelek Aleph, Siman Taf, Taf Zain, et Siman Taf Kuf Tzadi Gimel, et dans Chelek Vav, Siman Reshmem Gimel. Il écrit qu'il faut être métive avec tous les peuples, il faut aider et faire du bien à tous les peuples, et amener à leur vie du bonheur. Il faut procurer du bonheur à tout le monde, même aux non-juifs. Et il ajoute, il écrit dans un autre livre, dans Oroth, page Kouf, même tête, il dit que Ahavat Israël, mechayevet Ahavat kol adam. Quelqu'un qui veut faire Ahavat Israël convenablement, il est obligé d'aimer tout le monde. Il n'y a pas juste j'aime les juifs et je n'aime pas les autres. Et il dit, lorsqu'il y a un sentiment de haine, de mépris, vis-à-vis des non-juifs, vis-à-vis d'une partie chelek mine enoshut, il appelle ça une partie de l'humanité. Moi j'aime tout le monde, même les goyim, sauf cela. Il y a un sentiment de haine par rapport à un peuple. Siman dit c'est un signe, c'est la preuve. Siman shelo nithara adain aneshama mizohamata. Quelqu'un qui éprouve un sentiment de haine pour une race sur terre, c'est injustifié, c'est par rapport à la race, c'est pas parce que c'est un terroriste, non, c'est un problème ethnique. Cette race-là ne peut pas les livrer. C'est un siman que sa neshama ne s'est pas totalement purifiée de la zohama du chet. Il est encore un petit peu sale. Il écrit aussi dans Shmoné Kvatsim, dans Chalek Alef Siman Resh Gimel, que neshamot agdolot, les grandes âmes, les gens qui ont une neshama élevée, neshamot agdolot margishot kesher le chole enoshut. Elles se ressentent attachées à toute l'humanité, tous les peuples. Il n'y a pas de distinction. Bien sûr, on peut après être plus proche du juif, parce que c'est mon peuple, c'est ma famille, il fait la même Torah que moi, etc. On est plus proche, mais il faut aimer tout le monde. Le Maharal écrit plus ou moins la même chose dans Derech Chaim, page Lametret et page Memzain, que celui qui aime Dieu réellement, celui qui est Ohev Hashem, celui qui aime Dieu, Ohev et Briota. Si tu aimes le bon Dieu, tu aimes ses créatures. Si tu n'aimes pas ses créatures, c'est que ta Avat Hashem, elle n'est pas tout à fait parfaite. Plus ou moins la même chose dans le Ramak, le Rav Cordovero, dans Tomer Devora, Perek Bet et aussi à la fin de Perek Gimel. Rav Blazer Fleck, Elzang Soutenaim Oddalet écrit aussi qu'il est interdit d'humilier, de haïr un goy. Comme c'est marqué dans Avot Perek Dalet Mishnah Gimel, Altei Baz le Choladam. C'est quoi Choladam? Il dit même un goy. Bon, Davka là-bas, c'est marqué parce que l'Adam Shen Locha, donc c'est pas génial comme preuve. Il ramène aussi dans Avot Perek Bet Mishnah Yudalef, Aïnara, Yetzerara, Vesin Atabriot, Motsin et Adam Ina Olam. Sin Atabriot, toutes les briotes, même un goy. Si tu as un sentiment de haine pour les goyim, ça aussi, ça sera Motsi Otram Ina Olam. Et il ramène le Pasouk dans Dvarim 3, 8, L'autre est Aev Mitzri, qui guéra Ita Berso, et dit Kalvachomer pour les peuples parmi lesquels on vit. Même un Égyptien avec tout le mal qu'ils nous ont fait pendant 200 ans d'esclavage, et ils ont tué les enfants, ils ont jeté les garçons dans l'eau, etc., etc. Et on dit malgré tout, n'aie pas en horreur l'Égyptien. Pourquoi? Qui guéra Ita Berso? T'as quand même habité chez eux, t'as profité de la terre. Donc respecte. Il y a une ta'ana, pareil pour la France, quelqu'un qui est en France, il ne peut pas dire je suis en France, je tire profit du pays, mais je ne les aime pas, beurre, tu leur vomis dessus. Non, même les Égyptiens qui nous ont vraiment maltraités, la France n'a pas été très joyeuse pendant la Seconde Guerre mondiale avec Vichy, Valbrozot, aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes personnes, c'est des gens beaucoup plus gentils, certes, pas tous des tzadikim, je ne veux pas dire que tout le monde est tzadique, mais reste l'argument que même s'ils étaient comme les Égyptiens, on pourrait encore dire la France, on l'aime ou on la quitte. Il y a toujours une idée de « t'es là, t'es content, alors ne commence pas à dire « je crache sur tout le monde ». Il écrit, le Rafle Kels là-bas, « Mi peti chasser lev ou meshuga, qui est le débile ?» qui va s'imaginer que la Torah nous demande ou nous permette de mépriser les non-juifs. « Ein zekim roa lev veu neged Torah ve achorma veira » C'est que des mauvaises midotes de la personne qui le pousse à penser ça. Et ça va à l'encontre de Torah et de Yira et de Chochma. Dit, on est obligé, les drosh shlomam, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot Yudzayin, qu'on avait dit, aouv le mal, avnechmad le mata, etc. Il y a aussi le Rav Cheskia Shabtai de Salonique, il écrit dans son livre, Divrei Cheskia, ou page Kufnunva avec Kufnunzayin. Il dit, on est tenu, obligé d'aimer les goyim, d'être gentil avec eux. Kal vachomer des Égyptiens. Il est marqué Égyptien, il ne faut pas avoir en abomination l'Égyptien avec tout le mal qu'il nous a fait. Kal vachomer pour nos goyim, il dit Chayavim leishtatef betzaratam ou leitztaer aleim. On doit participer à leur souffrance et à leur tristesse et à leur deuil. Quand on est dans un pays et qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un attentat, il ne faut pas dire oh, de toute façon c'est des goyim qui sont morts, ben c'est bon, il n'y avait pas de juifs là-bas. Non, non. On est dans un pays, on doit respecter ces gens-là, il y a des gens gentils qui se sont fait tuer, il faut avoir de la peine pour eux, pour les familles, etc., etc. Plus ou moins la même chose décrit par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, dans Chorev, Perek Rafé, page 435, le Rav Hirsch écrit qu'un juif est tenu d'aimer son pays, le pays dans lequel il est né, il est tenu de l'aimer. Il dit, vezeme ot beshanim, ça fait des siècles déjà, ishtatef Israël tamid beosher veasson amdina. Les juifs se sont toujours associés aux joies et aux tristesses du pays dans lequel ils habitaient. Pratzkel Levinstein aussi, c'était le Mashgiach à la Yeshiva de Ponevitch et Amir avant pendant la Seconde Guerre. Pratzkel Levinstein, lorsqu'il était déjà à Bnei Brak à Ponevitch, il avait dit au Bachroum, il y avait eu un tremblement de terre en Asie, plein de morts, je ne sais plus, 100 000 morts, un truc terrible. Et il avait dit aux élèves, je ne comprends pas, je ne vois personne en parler dans la yeshiva. Personne n'est terrorisé par ce qui s'est passé en Asie. Je ne sais plus si c'était en Chine, au Japon, je ne sais plus exactement où c'était. Personne n'est terrorisé par ce qui s'est passé. Il y a eu des dizaines de milliers, peut-être même 100 000 personnes qui sont mortes. Des enfants, des jeunes, des vieux. Ça vous fait ni chaud ni froid, vous n'avez pas l'air terrorisé, ça passe. Ouais, c'est des goyim, c'est pas grave, etc. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Cette dracha, elle a été consignée dans le Or Yecheskel, dans Chelek Midot, page Kouf Memtet. Et il ajoute là-bas, dans page Kouf Nun Aleph, il dit que HaKadosh Baruch Hu réclame et tovea du juif. Il demande à chaque juif, Lehar Gish ou Lerachem Af al goyim. Qu'il faut ressentir la souffrance du goy et avoir pitié et avoir de la peine pour lui. C'est une mitzvah que Dieu attend de chaque juif. Il faut être compatissant envers les juifs, mais aussi envers les non-juifs. Dit comme c'est marqué dans le Midrash dit, dans Bamidbar Rabba, Parashachav Siman Aleph, Re'em ben Nevié Israël et Nevié Akum, Nevié Israël, etc. Hayu bemida tarachamim, al Israël ve al Akum. La différence qu'il y a entre les prophètes juifs et non-juifs, c'est quoi? C'est que le prophète juif, le tzadik chez le juif, il éprouve des rachamim pour le juif et pour le non-juif. Le prophète des autres peuples, il s'intéresse qu'à son peuple. Le prophète juif, il s'intéresse à tous les peuples. Il y a de la peine pour tout le monde, pour tous ceux qui ont souffert. Sheken Yirmiya Omer, dit le Midrash, ramène le pasouk dans Jérémie 48, 36. Libi le Moav kachalalim yehemé. Et dans Yecheskel 27, 2. Ve'ata ben Adam, sa al tsor kina. On voit que les prophètes avaient de la peine pour les non-juifs qui ont souffert. On voit aussi avec Abraham, avec Sdom et Amora. Abraham, il s'est cassé la tête dans tous les sens pour essayer de gratter auprès du bon Dieu, d'avoir pitié, de ne pas tuer les gens de Sdom, alors que franchement, ce n'étaient pas des super tzadikim là-bas. La même idée, on la retrouve dans Rabbi Tzadok HaKohen, Tzidkat HaTzadik, Ot Kufnun, Rabbi Avraham Azoulay aussi. L'arrière-grand-père du Chida, dans Ahava Beta Anugim, sur Maseret Avot, Perek Aleph Mishnah Yudbet, Davvav Amud Aleph, dans l'édition de Jérusalem 1915, dit c'est quoi Oev et Abriot, Oev et Abriot, ou Mekarvan la Torah, Heve Oev et Abriot, Kelomar, Bemashem Briota Vitzbarach Levad. Le simple fait d'être une créature de Dieu, ça justifie déjà que tu dois les aimer. Tsarich le Eovotam. Ce goy, il a été créé par Dieu, déjà tu dois l'aimer pour cela. Pareil dans le Midrash Shmuel, l'écrit Mamash, la même chose. Midrash Shmuel sur Avot, Perek Aleph Mishnah Yudbet. On dirait qu'il a fait un copier-coller. C'est un plagiat. Il y a pareil aussi le même explication aussi de Mishnah dans le Rav Aaron Katz, dans le Marzik Bracha du Rav Aaron Katz, édité à Cracovie 1914, Chelek Bet, Perek Dalet, Daf Rav Dalet Amud Alef, et aussi dans Chelek Gimel, Perek Gimel, Daf Lamed Dalet Amud Alef, il ramène aussi cette idée-là au nom du Midrash Shmuel. Le Rav Chalfon Moshe à Cohen, qu'on a cité tout à l'heure de Djerba, encore une fois, dans Zechut Moshe Drush Zain, c'est un livre qui a été imprimé dans le Maté Moshe, imprimé en 1919, page 64, Samer Dalet. Il écrit « Kibet Selem Elokim Bara et Adam » Ve'en raou iliot de machloket im shum nivra, ben israeli, notzri, ishmaeli, un chrétien, un musulman, peu importe. Faut pas être en se disputer. Faut aimer tout le monde, faut être gentil avec tout le monde. Dans le Midrash, Bamidbar Rabba, Parsha Chafalef, Siman Chov Dalet, il y a marqué, là-bas les Chazal se plaignent. Et ils disent, regarde, à Soukot, on amène Shiv'im Parim, 70 sacrifices. Pour les Shivim ou Mot. Vous savez qu'à Soukot, on amène 70 parim pour les Shivim ou Mot. Ça veut dire quoi? C'est 70 sacrifices qu'on amène au temple pour prier Dieu d'aider et de soutenir et de sauver les 70 peuples, c'est-à-dire tous les goyim. Il y a des sacrifices qu'on amène pour les Juifs et on amène spécifiquement à Soukot des sacrifices pour le bien, pour le bien-être des peuples non-juifs. Il dit, le Midrash dit, quand même, c'est terrible. Nous, à chaque Soukot, on amène plein de sacrifices à notre Dieu pour qu'il protège les non-juifs et qu'il leur donne du bien, qu'il leur fasse une vie heureuse, qu'ils soient bien, qu'ils se portent bien, qu'ils ne soient pas malades. Et eux, marzirim lanou, ils nous rendent sin'a tachat ahava. Et eux, ils sont vaches, ils nous tuent, ils nous charcutent, alors que nous, on leur donne de la ahava, eux, ils nous donnent de la sin'a. Stop! Qu'est-ce qui a été dit ici? Nous, on leur donne de la ahava. Quand à Soukot, on fait 70 parim, c'est parce qu'on aime les goyim. C'est pas parce que c'est une halakha, ziratakatou, on le fait. Non, cette halakha nous dit qu'il faut aimer les gens. Il faut être gentil avec tout le monde. Il faut aimer les gens, il n'y a pas de raison d'haïr quelqu'un. Une preuve à ça, et là vraiment je termine avec ça, une preuve à tout ça, c'est que, parce que là on peut dire on est dans la théorie, dans la réalité, quand on regarde, on trouve chez les Chazal, Tanaïm Vamoreim, des rabbins qui étaient amis sincères avec des non-juifs. On a Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar Ben Azaria, Rabbi Akiva, c'est toute la crème de cette génération, tous les Gdolé adorent. Ils étaient copains avec un goy philosophe, c'est marqué dans Derech Eretz Rabba, Perek Gimel, ou Perek He selon les versions. Ils étaient copains, amis avec un goy philosophe, il n'avait rien de juif. Mais c'était un goy philosophe, il était gentil, il se comportait bien, ils étaient amis avec lui, c'était les Gdolé adorent. Imaginez, c'est comme si je vous dis, il y a Rav Sheiman, Rav Eliashi, Rav Odi Yosef, Rav Shepawa, ils sont copains avec un monsieur Goy, parce qu'il est gentil, il se comporte bien, c'est leur ami. Et ils vont chez lui, et lui il vient chez eux, et ils discutent, et ils sont sympathiques, etc. C'est ça qui s'est passé. Il s'agit des Gdolé et Hador de l'époque de la Mishnah, et eux étaient amis avec un philosophe Goy. On a aussi, la génération juste après, son élève, Rabbi Meir. Rabbi Meir était copain avec ce Nimous Agardi, ou Av Nimous Agardi, selon les versions, dans Ruth Rabba, on l'a cité tout à l'heure par Hachabet Siman Yod Gimel, et aussi dans le Yalkut Shimoni sur Ruth Siman. Taf Resh Aleph, Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a mis la Mishnah par écrit, lui aussi était copain avec Antonin, un empereur Antonin, comme chacun sait, on ne sait pas trop c'est lequel, mais c'était un empereur Antonin comme c'est marqué dans la Gemara, dans Avodah Zarah, Yud Amud Bet, qu'il était ami avec Antonin, et dans Choulin, Peizain Amud Aleph, la Gemara Choulin Peizain Amud Aleph, il y a marqué qu'il a invité un Sadducéen à venir manger chez lui, Rabbi Yehuda Anassi, et dans Tanat Be'eliyahu Rabba, Perek Yud, Daflamettet Amud Aleph, c'est marqué Maase Bekomar Echad, Komar, c'est difficile à traduire, c'est peut-être un prêtre, hein, je sais pas, on va dire, voilà, un curé, est-ce que je sais. Un komar echad ve Rabbi Yehuda Hanassi, she'ayu ochlin ve shotin yachad. Il y a une histoire, une fois, Rabbi Yehuda HaNasi et le Komar, donc est le prêtre, un prêtre non-juif, qui était en train de manger et boire ensemble, et discuter, etc., etc. On voit encore, donc, une fois, la même idée. Quand on lit là-bas dans la suite, on voit bien que ça se passait chez lui. C'était chez le Komar. Il mangeait kasher, bien entendu. Pas le vin que le goy a touché, bien entendu. Et il ne se mariait pas avec, bien entendu. Mais il pouvait quand même entretenir une relation amicale si c'est quelqu'un qui travaillait les midotes et qui était gentil. Après ça, au niveau des Amoreim, ça continue. Rav. Rav, élève de Rabbi. Rav était copain avec un goy qui s'appelle Adrechan. Dans Avodah Zarah Yud Sof Amud Bet, on nous dit il était ami avec ce goy-là. Là-bas, c'est marqué que lorsqu'il est mort, Rav a dit Nitparda Achavila. Et Ahmed, c'est marqué aussi sur Rabbi, sur Antonin. Quand Antonin est mort, Rabbi a dit Nitparda Achavila. Qu'est-ce que ça veut dire Nitparda Achavila? Littéralement, le sac est détaché et défait, wow, ça part en vrille, etc., etc. Rashi explique, Avodah Zarah Yudalef Amudalef en haut, Rashi explique c'est quoi quand Rav et quand Rabbi ont dit sur le décès de leur ami non-juif Nitparda Achavila, Rashi dit Ahava Teinu Shekshura Nefesh Benefesh. Qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est perdu? Ahava Teinu, notre amitié. Pourquoi ? C'est que Shura Nefesh Benefesh, car on était reliés dans l'âme, on était vraiment amis, profondément amis. Donc on a ici Rav qui dit qu'il était profondément ami avec Adrechan. Pas juste ami comme ça, parce que par politesse et mipnei darkei shalom et par danger et je ne sais pas quoi. Le Shmuel, le collègue de Rav, Shmuel à la même époque, l'amora Shmuel, était chaver, était ami avec un goy qui s'appelait Avlet. Dans Masechet Shabbat, Kufnunvav Amudbet, c'est marqué qu'il avait un copain, Avlet. C'était son ami. Il y a même marqué dans Avodah Zarah Lamed Amud Alef qu'ils ont mangé ensemble. Il a invité son copain à venir manger chez lui. Et son copain le connaissait tellement que lorsqu'il est chez lui, le Shamash a amené le vin pour boire. Et Avlet, quand il a vu le vin qui arrivait, il avait les mains sur la table. Hop, il a retiré ses mains et l'a mis derrière son dos. Il dit pour pas, par inadvertance, toucher le vin de mon copain et je le rends pas cachère, c'est pas sympa. Donc il a enlevé ses mains. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment amis, ils avaient partagé. Il lui avait dit à la chote, écoute, t'es goy, moi je suis juif, on est copains, on a pas le droit de se marier ensemble et j'ai pas le droit de boire du vin que t'as touché parce qu'on doit mettre une barrière, parce qu'il faut cette barrière, parce qu'on a chacun notre rôle. Le juif il a son rôle, le goy a son rôle et il faut pas se mélanger. Donc je t'adore, t'es mon pote, mais désolé, tu touches pas mon vin. Et donc il savait et il touchait pas son vin. Là-bas dans la Gemara, c'est marqué, tu peux remettre tes mains, c'est du vin mevouchal, tu peux y aller. Dans le Seder Adorot, il s'étonne de ça. Le Seder Adorot du Rav Halperin, il s'étonne et il dit comment ça se fait que le Yuchasin, dans Sefer Yuchasin, il écrit sur Avlet, il écrit Aya Havero Shel Shmuel. Seder Adorot, il dit au Sefer Yuchasin, comment tu te permets d'écrire sur Avlet, un goy, c'était Havero Shel Shmuel, le copain de Shmuel, mais comment tu parles? Alors, le Rav Shlomo Yudar Rapaport, Shir, il écrit dans son Erech Milin, Chelek Alef Pash Tzadik, il reprend le Seder Adorot, il dit au contraire, il vient défendre le Sefer Yuchasin. Il dit, qu'est-ce que tu lui reproches? Aré Rashi lui-même écrit dans Avodah Zarah Yud Aleph que Rav était copain avec Adrechan, Nefesh Benefesh. C'est plus que Chaver, c'était les super grands amis, c'est son meilleur ami. Et donc tu vois bien qu'il n'y a pas de problème à dire que c'est son Chaver. Betem, c'est marqué dans Beitza, Rafalef Amud Bet, Mazminim et Anochri Beshabbat. Une halakha qu'on a le droit d'inviter un goy chez soi à Shabbat. C'est moutard, on dit ça parce qu'on a parlé de l'inviter à Yom Tov, parce qu'il y a une zera de Shema Yarbé. Mais à Shabbat ou en semaine, on peut inviter un ami goy, il n'y a pas de souci. Agave au passage, petite parenthèse que je vais faire un petit peu parce qu'il est tard, je sais, désolé. Pas comme le Ben Ishraï Shana Alef, Parashatemor Siman Yudbet, Aïncham Vedav Nahas. Il y avait aussi d'autres après, chez les Rishonim, dans la Gemara on a vu Tanaïm, Amoraïm, même chez les Rishonim on voit ça. Rabbi Yuda Levi, le Kuzari, avait un ami poète non juif. Le Rabbi Emmanuel de Rome, c'est un Rishon de l'époque du Meiri. Il était ami avec Dante. Il a écrit d'ailleurs un livre qui ressemble beaucoup à la Divine Comédie. Il s'appelle Tophet ve'Eden. Il a fait pareil en hébreu. Il a fait un plagiat lui aussi. Allez hop. C'est terrible ces rabbins. Le Rav Elia Bachour, qu'on a cité tout à l'heure, il était non seulement ami, mais hébergé chez son ami cardinal. Un cardinal qui s'appelait Gilles de Viterbe, qu'il a hébergé pendant 13 ans. En contrepartie de cours d'hébreu. Il lui a enseigné l'hébreu pendant ce temps-là. L'autre, il voulait apprendre l'hébreu. 13 ans, ça lui a mis à apprendre l'hébreu. Ça se trouve dans la. Il écrit ça dans différents Sfarim, dans la Akdama Shnia du Sefer HaTishbi, et il écrit aussi dans la Akdama Shnia du Mesoret HaMasoret. Là-bas, d'Afrika, il écrit 10 ans. Il n'avait pas encore terminé ses 13 ans. Bref, encore plein de rabbanim, des rishonim, des acharonim, qui étaient amis sincères avec des non-juifs. Pas juste parce qu'on a peur de représailles, il faut créer des relations, etc. Et ce qu'on voit, qu'il y a parfois des juifs qui ont un sentiment de haine injustifié envers un goy, pas envers un goy terroriste, envers un goy gentil, mais d'ailleurs que je ne l'aime pas parce que c'est un goy, Ça, c'est une mauvaise mida. C'est une mida ra'a. C'est ce qu'écrit le Rav Kook. Dans Shmoné Kvatzim, Chelek Aleph, Ot Taf Kuf Tzadi Gimel, il dit, il y a une sorte de tsaroutaïn, il y a une mauvaise mida qui entraîne, qui pousse certains juifs à voir d'un œil négatif tout ce qui est en dehors du cercle juif. Tout ce qui n'est pas juif, j'aime pas, je méprise. Tout le reste n'est que qui ourve tum'a. Il dit, c'est goy, c'est tamé, burger, burger, j'en veux pas, etc., etc. Il dit, ça, c'est un des points essentiels qui font, qui entraîne harissa klalit lechol binyan atov aruchani. C'est un des points essentiels qui massacre la construction spirituelle du peuple juif. Le fait qu'il y ait des juifs qui méprisent les goyim sans raison, c'est un des points les plus importants à souligner dans ce qui participe à la harissat binyan aruchani des juifs. Les juifs essayent, devraient essayer du moins, essayer de construire une philosophie moussarite adaptée à la Torah. C'est le but dans Eretz Israël, c'est le rêve de Rav Kook de faire un pays d'après la Torah, arriver à faire un pays où on voit comment des gens se comportent par rapport aux minorités, où on voit comment les gens se comportent par rapport aux règles, au savoir-vivre, toutes sortes, toutes ces mitzvot-là, qui sont souvent bafouées ailleurs, voir l'intégrité de la Torah et des midot du peuple juif. Dit, si on commence à mépriser un goy sans raison, on va tout à fait à l'encontre. Cette construction spirituelle s'effondre. Maskana de Milta, la conclusion, je termine avec ça, désolé d'avoir traîné, je termine. La conclusion, c'est que la haine du goy appartient au Amé Haaretz. Seul l'ignorant peut se réclamer raciste ou pseudo-raciste ou j'aime pas l'égoïsme parce que la Torah dit. Non, la Torah ne dit pas. C'est la Torah que tu ne sais pas lire et que tu ne sais pas comprendre. C'est ton Talmud que tu as lu à l'envers qui te dit ça. Mais les Chachamim, les Chazal, Rishonim, Acharonim, tous ceux qu'on a cités, montrent bien que ça n'est pas la position de la Torah. C'est la position du Amé Haaretz, de l'ignorant, de l'analphabète qui ne sait pas comprendre son Talmud. Celui qui a compris convenablement son Talmud, qui l'a lu et digéré, qui a lu les commentaires, voit bien que ce n'est pas du tout l'esprit de la Torah. Et donc cette haine du Goy est Shayechet au Amaret, ou peut-être il y a aussi certains kabbalistes qui ont dévié, je pense kabbalistes chez Loshimshu Kol Tzorkam, qui n'ont pas bien compris certaines choses. Encore une fois, la Kabbalah, c'est comme la Chassidut, on pousse un maximum le niveau de Kedusha, on risque de déraper. C'est bien de pousser la Kedusha, mais pas au prix de déraper sur les bases de la Torah. Il faut se rappeler des bases de la Torah, il ne faut pas les enfreindre. Si on est un grand sadique, grand kabbaliste, mais on transgresse l'Otetaev Mitzri et l'Otetaev Edomis, c'est quand même marqué dans la Torah, il ne faut pas le perdre de vue. Donc il y a, ça c'est le propre du Amé Haaretz, d'haïr le goy, d'être raciste. Le bon juif, le yéhoudi kacher, n'éprouve de haine que pour la rishout du goy, ou la rishout du juif. C'est sur le mauvais comportement qu'adoptent certains goyim ou certains juifs, c'est ça que le bon juif n'aime pas. Et le juif rachat, parce qu'il y en a aussi des comme ça, le juif rachat, lui, il aime le goy. Mais il aime le goy pas pour les bonnes raisons. Pas parce que c'est briotav de Dieu, parce que c'est les créatures de Dieu. Lui, il aime le goy parce qu'il veut ressembler à ce goy. Parce qu'il veut commettre les mêmes bêtises que ce goy. Parce qu'il veut se comporter de la même manière. Même des goyim rechaim, il veut les suivre. C'est pas le goy gentil et poli et éduqué et qui respecte les shiva mitzvot qu'il aime. Il veut aimer les goyim et s'inspirer des goyim qui se comportent mal aussi. Parce qu'il veut être domé, bedarkeim. Et ça, c'est pas bien. C'est en faisant ça qu'on oublie de respecter le rôle du juif. Le juif a un rôle, il ne doit pas se mélanger avec le goy. On ne peut pas se marier avec les goyim, même si c'est des tzadikim. Même un tzadik qui a sa part au Gan Eden, c'est le tzadik chassid umot olam shem kedugmato, on n'a pas le droit de se marier avec parce qu'il est goy. C'est un autre peuple. S'il se convertit, pas de souci, pas de problème. Mais tant qu'il est goy, non, parce qu'il a un rôle en tant que goy. Et moi, j'ai un rôle en tant que juif. Et on ne doit pas se mélanger pour cela. Après, les enfants partiraient aussi, etc. On abîmerait ce rôle. Un bon juif a besoin d'avoir des parents juifs qui lui enseignent la Torah et qui lui montrent le rôle du juif sur terre. Si on se marie avec les goyim, ça se perd. En mala asod, ça se perd. Donc on ne doit pas se marier avec un goy, même si c'est un tzadik. On ne peut pas boire le vin qu'il a touché, même touché sans faire exprès. Parce qu'il y a une xéra midrabanan pour ne pas se marier. Il y a deux choses dans le vin. Il y a le problème de Avodazara. Ça, ok, s'il n'est pas ouvert d'Avodazara, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un problème, même avec un goy tzadik, comme Avlet, qui ne voulait pas toucher le vin de Shmuel. Parce que si on permet de boire le vin que le goy a touché, on fait sauter la barrière. Il y a une barrière que les Chachamim ont mis. On peut être amis. Tu peux être copain. Voilà, on voit tous ces Tanaïm, Amoreim, Rishonim, Vachonim qui étaient amis avec des goyim, qui sont allés manger avec eux, etc. Mais toujours manger kasher et sans toucher leur vin, sans boire leur vin, sans boire le vin qu'eux ont touché. Parce que ça, c'est les barrières, c'est, on va dire, c'est le, C'est le rappel à l'ordre, c'est pour pas dépasser les limites. On est copains, mais il y a une différence. Et on peut pas se marier ensemble. On ne doit pas se marier ensemble, on doit rester différent. Moi je suis juif, toi t'es goy. On est amis, mais on se marie pas ensemble. Chazak ou Baruch, bonne soirée. Les questions.